podcast.com. Essaye ça.
Salut tout le monde et bienvenue au Super Matozoïde de podcast.com. Mon nom est Mike Tremblay, je suis le plus beau de tous les amis de la planète et c'est moi qui est l'animateur de ce podcast d'opinion, le meilleur podcast d'opinion au Québec, sinon sur la planète, le Super Matozoïde. Alors, c'est l'épisode 356 en ce jeudi 2 juin 2021. Alors, comment allez-vous, ma gang d'esti d'épais, hein? Ça commencera cette semaine, hein? Comment allez-vous, ma gang d'épais, hein? Ma gang de déconfinés, hein? Ma gang de crise de sans dessin, hein? Qui respecte pas les règles, hein? Qui se colle dans les parcs parce que là, le gouvernement a donné raison, hein? Comment ça va, ma gang de stis d'imbéciles heureux, hein? J'espère que ça va bien. Évidemment, il y a une raison pourquoi je vous parle comme ça. Si le chapeau vous fait, portez-le, mais sinon, c'est vraiment parce que ça a l'air que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant sur les réseaux sociaux, hein? Les gens, les sonneurs d'alerte, les journalistes en devenir, les gens qui semblent vouloir dire que c'est eux que la population écoute et semble vouloir imiter plutôt que notre bon gouvernement et les merdias, eh bien, maintenant, on est rendu avec une nouvelle forme d'approche. Tu sais, on a vu l'approche « j'ai besoin d'argent », donc on part une fondation et de bonne foi, avec cet argent-là, je vais vous aider. Ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi l'approche religieuse, donc avec l'aide de Dieu, hein, pray the Lord, on va sauver votre âme et on va vous libérer, hein, de cette dictature sanitaire. Et maintenant, ben, on est rendu avec une approche de sans dessin, une approche un peu agressive. Et j'ai un extrait à vous faire écouter, c'est quand même spécial, on va se le dire. C'est monsieur, comment il s'appelle? Tristan Bavaria. Donc ça, c'est un gars qui, semblerait-il, moi je sais pas, j'étais pas un gros fan de cette émission-là, mais vous allez comprendre qu'il y a un lien, là. Hein? Il a déjà été animateur pour Call TV, donc... Je le sais pas, là. Je veux pas faire de mauvais liens avec Amélie Paul, là, mais qui a déjà été aussi animatrice à Call TV, mais fallait donc bien être bizarre pour travailler à cette émission-là. Hein. Moi, j'ai connu personnellement quelqu'un qui a déjà travaillé à cette émission-là. Elle était un petit peu weird. Donc, j'imagine que ça. Il n'y a rien de scientifique là-dedans, mais ça confirme pratiquement qu'il n'engageait que des gens bizarres à Call TV. Anyway, quand c'est rendu, il fallait que tu ailles en Autriche pour enregistrer une émission qui passait au Québec. Il y avait quelque chose de louche, hein, on va s'entendre là-dessus, là, hein, on parle d'exemption de taxes et d'impôts, hein, clin d'œil, voilà. Mais lui, je sais pas pourquoi, sincèrement, j'ai aucune idée pourquoi, mais lui a décidé qu'il se lançait vers le message, et c'est pas nécessairement quelque chose, comment je pourrais dire ça, c'est pas quelque chose qui est très positif, même, je vous dirais même, c'est très très agressif, et c'est pour ça que je l'ai traité de sti de cave, puis d'épais, puis d'imbécile heureux, parce que lui, ça semble être sa stratégie pour s'adresser aux gens, c'est de leur crier des noms. On écoute ça ensemble.
Puis il y en a qui paranoïent, puis ils me disent « Oh, how you doing, Tristan? Je sais même pas t'es qui. C'est normal, je sais pas t'es qui. T'as pas de masque. Je te reconnais pas. T'existes plus. T'es déshumanisé. Nos vieux, sacrement. Écoutez-moi, là, sacrement, là. À un moment donné, on peut plus juste se parler. On peut plus vous laisser gagner des guerres idéologiques. On peut plus vous laisser nous expliquer ce que vous avez vu à la TV. On peut plus vous laisser nous répéter que si on est en zone rouge, puis qu'il y a un cas, puis qu'il y a ci, puis... Vos gueules! M'entendez-vous, vos gueules? On est tannés de vous entendre, vous allez retomber sur terre avec nous autres, vous allez faire ça par amour pour nous autres, vous allez faire ça par respect pour nous autres, vous allez faire ça par orgueil pour vous tenir debout devant vos parents qui sont peut-être au ciel, vous allez faire ça par respect pour les petits-enfants qui ont le droit de rire, qui ont le droit d'aller à l'école sans masque. Calice, vous allez le faire pour le monde que vous aimez, puis on va vous aimer en retour. C'est ça le Christ de deal. Vous enlevez votre masque, vous donnez des becs à vos petits-enfants, vous allez marcher dans la rue, Saint-Calice, vous tenez la main des gens avec qui vous marchez, puis vous parlez avec ces gens-là, puis vous allez vous rendre compte que vous n'avez jamais été en danger. OK? L'influenza, ça n'a jamais tué personne, puis ceux qui en sont morts, ils n'étaient pas forts. Soyez forts, Saint-Christ.
Donc, c'est un message quand même assez... c'est assez... c'est très... Comment pourrais-je dire? Saint-Christ. C'est très imbécile comme message. C'est très premier niveau, premier degré. C'est très peu... C'est très émotionnel, hein? Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Très peu de réflexion, mais semblerait-il que c'est rendu ça la nouvelle façon de s'adresser aux gens. Donc, imaginez si les gens qui se partent des fondations ont tenté de glisser un message et d'embarquer monsieur, madame, tout le monde dans leur fondation avec des beaux mots, hein, des belles utopies et des rêves, des licornes, des arcs-en-ciel. Puis ça n'a pas marché. Tristan, hein? Tabarnak. Hein, je vais te parler comme tu nous parles. Crise de sans dessin. Comment tu peux penser, crise d'imbécile, heureux, qu'on va te suivre dans ton message si tu nous parles comme ça? Maudit vierge d'innocente cave. Hein? Premièrement, t'es qui, toi, Saint-Crème? Hein? Qui t'a demandé ton avis, toi, esti d'imbécile, heureux, fraîchement rasé? Hein? Pour de vrai. Qui t'a demandé de faire une vidéo? Ah, OK, c'est ta conscience. Ben, parfait. J'espère que ta conscience, ça va bien pour vrai. Parce que d'aller dire à des personnes âgées qu'ils sont pratiquement... ils ont quasiment été des imbéciles à porter le masque puis avoir fait ces sacrifices-là pendant des mois pour voir leurs enfants, leurs petits-enfants et autres pour leur sécurité et leur santé, c'est d'être imbécile. Puis t'en es un, Tristan. On va se le dire, t'es vraiment un imbécile. Puis un imbécile. Saint-Christ de Calice. Hein? Genre de méthode de péter plus haut que le trou, que toi, en te mettant dans une position de force, une position agressive, une position que, hey, je vais tellement parler haut et fort que les gens vont voir que c'est moi qui ai raison. Ben non, ça marche pas ça non plus, Tristan. Savez-vous quoi? Je vous l'ai déjà dit il y a quelques semaines, puis je vous le répète. Si on est rendu en déconfinement actuellement, c'est pas à cause de Tristan. C'est pas à cause de Stéphane Blais, c'est pas à cause de Stupid, c'est pas à cause de Alexis Cossette-Trudel, toute cette gang-là, là, l'artiste Charland, toute cette gang-là, c'est pas de leur faute, c'est pas à cause d'eux autres qu'on est libérés en ce moment. Les seuls responsables, ce sont ceux qui ont respecté les règles, dont les personnes âgées, Tristan. Hostie d'imbécile. Donc, si toi, ta façon de t'adresser aux personnes âgées, c'est les gens-là qui ont payé toute leur vie. Hein? Pour ta retraite, là. Aussi, là. Hein? C'est eux autres qui ont mis de l'argent aussi dans leur fonds de pension et dans, tu sais, qui ont généré l'économie, là, de demain. Puis que toi, tu dis, ben, écoutez, là, hein, l'influenza, ça n'a jamais tué personne, puis si t'en meurs, ben, c'est à cause que t'es pas fait fort. Pour vrai, Tristan, si j'étais méchant, je te souhaiterais une maladie, mais je le ferais pas. Juste voir si t'es fait fort, toi, face à la maladie, face à la vieillesse. J'ai hâte de te voir dans 30 ans, Tristan. J'ai hâte de te pointer du doigt. T'es un petit peu plus vieux que moi, je pense. En tout cas, t'as l'air vieux. En tout cas, tu parles comme un vieux. Un vieux innocent. J'espère te voir plus vieux, puis te pointer du doigt, puis te dire, tiens, calice, t'es mort d'une crise cardiaque. T'es pas fait fort. Hein, ça a l'air que c'est comme ça que ça fonctionne. Calice de tabarnak. Donc, je vais reprendre mon narratif à moi, à Mike Tremblay. Un narratif qui est somme toute posé, somme toute régulier, somme toute réfléchi. Puis je vais te prendre, Tristan, avec juste le bout de mes doigts, parce que on va se le dire, t'es une marde, là. J'ai pas envie de me salir les doigts, puis encore moins les doigts me puent, là. Puis je vais aller te tirer un petit peu plus loin, d'accord? Puis le jour que tu vas vouloir prendre la parole, que ce soit au micro ou avec moi en personne ou quoi que ce soit, là, je te conseille de changer de ton. Puis je te conseille surtout de respecter les personnes âgées. Parce que sais-tu quoi? Un jour, ça va être nous autres, les personnes âgées. Puis je pense pas que tu vas avoir le goût de te faire traiter comme tu les traites en ce moment avec plein de jugements. Alors que toi, dans ton cœur, dans ta tête, dans ton narratif, tu te sens si fort. C'est un peu toi le roi de la jungle, Tristan. Crise de gros épais. Et pendant ce temps-là, hein, les gens normaux qui se font parler comme ça par Tristan, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Là? Est-ce que ça va si bien que ça? Là? Ben oui, ça va bien. Qu'est-ce que ça sert de crier là actuellement? Là? Parce qu'il y en a qui crient, là. On s'entend, il y a des profs, hein, en ce moment, qui sont en train de négocier, mettre beaucoup de moyens de pression. Hein, je veux dire, nos enfants, ils ont à peu près une journée de pédagogique par semaine, puis ça, c'est sans compter les journées de grève. Faut vivre avec ça. Mais malgré tout, on dirait qu'on s'en fout un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on retrouve nos libertés. on redevient déconfiné. Tristan, il est compte ou court, là, mais nous, on devient des déconfinés. On est en train de se déconfinement, de se déconfiner, on est en train de devenir heureux. Pourquoi? Parce que la belle période, la période de l'été, bien, elle arrive tranquillement, puis ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme. Puis des gens comme Tristan, on va en voir de moins en moins cet été, puis ça va faire du bien. Hein? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Ça va faire vraiment du bien. Moi, en tout cas, pour le petit peu qu'il me reste de podcast pour terminer la saison, il me reste quelques semaines, là. Je veux des gens comme ça. Autant dans mon Patreon, autant sur ma page Facebook, autant dans ceux qui écoutent le podcast ou ceux qui vont vouloir, je veux dire, commenter le podcast. Je veux des gens positifs. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers des bonnes nouvelles. Parce que c'est pas facile, on va se le dire, là. Hein? J'ai une petite pensée pour les parents, justement, qui sont pognés avec leurs enfants. Ils peuvent pas aller travailler parce que, justement, il y a des profs qui font des moyens de pression. J'ai une petite pensée aussi pour les gens qui veulent se faire construire une maison et sont obligés de l'hypothéquer. Hypothéquer la maison qui n'est pas construite pour acheter du bois pour faire construire cette maison-là. Parce que ça coûte trop cher. C'est épouvantable le prix du bois, là. Boîte de cure-dent, 28$. Non. Mais vous comprenez-vous? J'ai aussi une petite pensée pour les gens qui s'achètent des billets pour le Canadien de Montréal, qui sont rendus en série, le Canadien. Donc, j'ai vraiment une pensée pour ces gens-là qui ont payé, mettons, exemple, entre 6 et 9 000 $ pour un billet pour aller voir un match du Canadien. Et là, sachant que le Canadien s'en va en deuxième ronde, j'ai hâte de voir la folie que ça va avoir pour acheter des billets pour un match au Centre Bell. J'ai une petite pensée pour eux autres. Et c'est pourquoi, mesdames, messieurs, il est déjà là au bout du fil. On va jaser avec lui. C'est M. P.S. Gauthier, hein, et sa chronique de sport. Salut, man. Comment ça va?
Salut, Mike. Ça va très bien, toi-même?
Ben oui, ça va bien. Ça va bien. Tu connais-tu ça, toi, Tristan Bavaria? Tu connais-tu ça?
Tristan Bavaria.
Ouais, ouais.
Le nom me dit quoi, mais je sais pas pourquoi, mais j'hésite.
Ah, c'est un gars qui il a une grande carrière comme animateur à Call TV. Ça a duré 2 mois là, en Autriche, mais bon. Lui, il se permet de faire des vidéos sur YouTube et sur Facebook, puis il traite les personnes âgées de caves. Soyez pas caves, enlevez-les votre masque et allez embrasser vos petits-enfants. Lui, il a décidé que ces gens-là, ces personnes âgées-là, qui méritaient pas de respect malgré le fait qu'ils ont travaillé toute leur vie puis ont contribué à la société toute leur vie, alors que lui, il a probablement travaillé à Call TV puis a sauvé des taxes et des impôts parce qu'il était travaillé en Autriche, là. Mais lui, il se permet de juger le monde puis à nous crier à coups de crisse puis de tabarnak. C'est spécial pareil, hein?
C'est un beau modèle, là. C'est un modèle intelligent, développé avec une certaine culture, puis tout, là.
Oui, c'est un con de classe mondiale, comme dirait le Monsieur Pignon. Pas Monsieur Pignon, mais Monsieur... Oui, c'est ça, Monsieur Pignon, dans le dîner de
ton. Monsieur Bronchant.
Monsieur Bronchant, voilà. Hey, EPS, comment ça va, mon chum?
Ça va très bien, toi-même. Tu dois être content?
Ben, content. Je veux dire, content pour le Canadien ou pour l'Avalanche?
Ben, dans ton cas, toi, c'est sûr, c'est l'Avalanche, là. Ton équipe étant l'Avalanche, mais tu dois être content de la tournure des événements, comment ils se comportent depuis le début.
Je suis surtout content qu'on se sauve des blessures. Parce que, mettons, depuis 3 ans, on a toujours eu des bonnes équipes. Pas, jamais aussi bonnes que cette année, on s'entend, là. Cette année, c'est une machine, là. Mais, à chaque année, il y avait des blessures, puis souvent des positions comme clés, comme dirait l'autre, comme genre gardien de but, là. Alors, on avait toujours nos gardiens qui se blessaient. Quand c'était pas ça, c'était un attaquant ou... Là, cette année, on va se croiser les doigts, je touche du bois, là, évidemment, là, on enregistre le mercredi, même si le podcast sort le jeudi, donc imagine-toi donc que ce soir, probablement, notre gardien va se blesser, verrais-tu ça? Ce serait épouvantable.
Je te le souhaite pas, mais honnêtement, je penserais pas. Tu sais, Grubauer a l'air d'être en forme, il est en pleine possession de ses moyens, il est en nomination pour le Vézina cette année. Tu sais, il connaît vraiment une saison hallucinante, puis les joueurs en avant lui jouent bien, fait qu'il n'y a pas à faire de un gardien qui se blesse, là, souvent, c'est parce qu'il va être pris dans une mauvaise posture, va devoir faire un faux mouvement ou il y a un crash de net intense du style Chris Kreider des Rangers.
Ouais.
Ce que t'as pas chez les Golden Knights de Vegas. T'as pas ce type de joueur-là. Le seul qui est là, il est suspendu.
Oui, il est suspendu 2 matchs parce qu'il a tenté de blesser Graves. Ouais, c'est ça.
Exact.
Ouais. C'est spécial pareil.
Reeves est suspendu. Honnêtement, si Kadri a eu 8 matchs, je me demande pourquoi lui a eu juste 2 matchs. Mais ça, c'est encore une fois le grand débat des suspensions de la Ligue nationale. Là. Mais tu sais, on a ce qu'il faut en avant de Grubauer pour le protéger pour ce type d'action-là. Puis la défensive joue bien aussi, fait que ça évite qu'il soit pris hors position tout le temps. Fait que je m'attends pas à ce qu'il se blesse. Je te le souhaite pas, là, parce qu'honnêtement, je pense qu'ils sont dans une belle posture pour avoir un chemin ouvert jusqu'à la finale de la coupe. Là.
Ouais. Ben oui, bien effectivement. Puis on va parler du Canadien, évidemment, mais juste pour revenir un petit peu sur l'Avalanche, le premier match, on s'entend, Fleury n'était pas là, il venait de sortir d'une série de 7 matchs, il y a 36 ans, on l'a reposé pour un match. On a quasiment mis une croix sur le match en mettant Lehner en se disant, bon, on va espérer qu'il nous vole un match, là. Mais tu sais, je pense qu'il savait très bien que après une semaine de repos, l'Avalanche allait les manger tout rond. Pour le reste de la série, on s'attend à quelque chose de plus serré, en tout cas, on le souhaite. Mais en même temps, je pense que Vegas s'est rendu compte que l'Avalanche, c'est pas la même équipe qu'en saison. T'sais, on dirait qu'ils sont en mission cette année. On voit des jeunes, là. T'sais, quand on parle de jeunes, c'est jeunes. T'sais, des Makar, des Girard, des Timmins. T'sais, je veux dire, c'est tous des joueurs qui ont à peu près 22 ans maximum. Ça joue comme des vétérans, les passes, les sorties de zone, avec Devon Toews qui s'est rattaché à tout ça. La défense, la ligne bleue de l'Avalanche doit faire peur à tous les attaquants de toutes les équipes de la Ligue nationale en disant, hey, si on fait une erreur puis ramasse la puck, là, puis ça repart sur l'autre sens, là, on pourra jamais revenir à temps. Donc, tu sais, rendu là, tu viens de gagner une partie de la bataille en ayant des joueurs de cette qualité-là. Parce que l'attaque, l'autre bord, ils prendront pas de chance. Surtout pas en série, en sachant que tu peux, avec les tireurs qui ont du côté de l'Avalanche, là, les sharpshooters, ils peuvent scorer n'importe quand, là. Donc,
Non, puis tu l'as dit, là, la relance va à une vitesse fulgurante. La moindre erreur est coûteuse parce que soit la relance peut revenir par un Rantanen, un McKinnon qui sont d'une vitesse, écoutez, McKinnon, là, quand il décloche puis enlève le trailer, là,
hey.
Ça va vite, là.
Oui. Et puis Rantanen qui a marqué son premier but du revers. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un but du revers d'aussi loin. Donc, faut que le lancer, il rentre en tabarnane du revers, là. C'est quelque chose. Pour vrai, là, j'en parle. C'est mon équipe, là. On vous allait dire, oh, ben, Mike, il capote, là. Il y a un semi-croquant. Oui, mais je suis content. Après toutes les années de misère, je suis content de voir qu'on a une grosse équipe et j'espère se rendre jusqu'au bout. Mais ce qui est drôle là-dedans, PS, ce qui est drôle là-dedans, c'est que la façon que les séries sont faites, c'est que le Canadien, hein, puis on va revenir évidemment sur la série de Toronto, mais si le Canadien élimine Winnipeg, puis que Colorado élimine Vegas, ils s'affrontent en finale ou demi-finale de la Coupe Stanley, c'est quelque chose pareil.
Puis si l'Avalanche met son gilet rétro, on a un match canadien-nordique.
Ah, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. En série, il faut que tu mettes les... Ouais, non, je sais, ça serait cool, là. Mais tu sais, la Ligue nationale, si tu as juste droit en
on
saison.
On va refuser les Nature Retro pour les séries d'une approche qui est totalement aberrant, à mon avis, à moi. Mais regarde, ça, c'est encore une fois un grand exemple de la belle gestion de Gary Bettman et de ses troupiers. Mais que veux-tu, c'est la vie. Mais effectivement, le Canadien-Toronto contre l'Avalanche, ce serait malade, c'est sûr, certain. Ça ferait une belle série. C'est le fun de voir un peu comment ça se profile en ce moment, les séries. T'sais, d'un, les nouvelles divisions ont apporté des nouveaux affrontements qui sont quand même le fun aussi, t'sais, d'avoir t'sais, le Canadien contre les Jets, justement, t'sais, dans l'ancien format, ça aurait été en finale de la Coupe.
Oui, effectivement, parce que Winnipeg est dans l'Ouest, donc Canadien est dans l'Est, donc c'est intéressant, effectivement. Mais avant ça, là, je veux vraiment qu'on parle de Toronto, là. Tu sais, je trouve ça intéressant moi aussi, mais je veux que tu m'expliques qu'est-ce qui se passe avec Toronto, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal ce qui s'est passé, là. Mené 3-1, on comprend, le premier match, Tavares se fait blesser, on capote tout, on est tous sur le derrière, on est choqués, là, carrément, là. On mène 3-1 après ça, on gagne les 3 prochains matchs, mais là, après ça, plus rien. Plus capable de rien faire, une crampe au cerveau total, plus capable de rien de tirer. Price a fait des bons arrêts, mais quand même, il n'a pas été surutilisé, en tout cas, dans les deux derniers matchs que j'ai écoutés. Moi, j'ai pas vu des gros arrêts spectaculaires de Price. Qu'est-ce qui se passe à Toronto? C'est-tu là des changements déjà?
Non, moi, je pense qu'il faut pas partir en peur. On sous-estime l'apport de Carey Price dans cette série-là. Là. Honnêtement, Carey Price a été, à mon avis, fumant sur beaucoup d'arrêts, puis il a pas fait tant d'arrêts, mais il a fait les arrêts clés au moment qu'il fallait qu'il les fasse pour empêcher la relance. Mitch Marner a été absent. Ouais. Je pense que il a été pointé du doigt énormément sur les réseaux sociaux. Je pense que ça l'a affecté beaucoup. Austin Matthews a été menotté par Philippe Danault. T'sais, on a beau dire Toronto. Là. Toronto n'a pas joué à la hauteur de l'attente, mais ils ont quand même pas mal joué. Mais je pense que le Canadien a joué le meilleur hockey de l'année qu'il pouvait jouer. Philippe Danault a été dans les shorts de ce trio-là tout le long. Tu sais, quand même, le cru de Philippe Danault a empêché le trio de Matthews Marner de marquer des buts. Ils ont marqué un seul but en 7 matchs.
Hey, méchant contrat, ça là. Matthews, c'est quand même le meilleur scoreur de la ligue. Là. Tu sais, c'est pas n'importe qui.
Exact. On a beau dire Toronto a choqué, Toronto. Tu sais, il y a une part de responsabilité qui leur revient, oui, mais je pense qu'il y a une part de succès qui revient beaucoup aux Canadiens dans la façon dont Dominique Ducharme a coaché ses équipes. Le changement de ligne pour toujours mettre Danault contre Matthews, À la poignée de main, à la fin du match, on l'a vu, là, Matthews a parlé longuement avec Philippe Dano. J'aurais aimé ça être un petit oiseau pour être sur leur épaule. Là. Mais je suis pas mal sûr qu'il a dû lui dire, il dit, man, t'étais dans mes shorts tout le temps, j'ai rien. Puis je crois que c'est là, il y a deux game-changing moments, à mon avis. Là. C'est vraiment le match-up Dano-Matthews qui a changé la donne pour eux. Même au cercle des mises en jeu, en zone défensive, le Canadien a été dominant pour sauver justement ces mises en jeu-là. C'est souvent les mises en jeu qui sont les plus dangereuses.
Ouais.
Quand tu perds un face-off dans ta zone, c'est là que tu donnes la chance à l'équipe adverse de s'installer. Matthews n'a pas été capable de gagner de face-off en zone offensive contre Dano. Dano les a gagnés coup après coup pour justement éviter cette position-là pour les Leafs. Puis quand on a réintégré Cole Caulfield puis Jesperi Kotkaniemi dans le line-up, Kotkaniemi a été un des très, très, très bons joueurs du Canadien dans cette série-là. A généré de l'offensive, a généré des opportunités. Caulfield, par son agressivité, par sa vitesse, par son patin, a amené à étirer la défensive, ce qui a ouvert des places à d'autres joueurs. Puis, à mon avis, la première étoile de cette série-là, c'est Carey Price. C'est Carey Price qui a fermé la porte au moment où il fallait. Il a fait des gros saves, là. Entre autres, dans le dernier match contre Hyman, 2-3 reprises dans la slot, comme on dit si bien en français, là.
Oui.
Des shots qui sont pas des shots faciles à arrêter, de la mitaine. Donc, faut rendre le crédit aux Canadiens dans cette série-là. Je pense pas que ce soit tant la faute des Leafs d'avoir mal joué, mais vraiment donner le crédit aux Canadiens d'avoir joué de façon exceptionnelle.
Non, on me dit à l'oreille que c'est l'enclave. Donc, on ne dit pas slot parce que ça a une autre consonance lorsqu'on le dit en anglais. Anyway.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, on peut dire il a pris un tir dans la salope, mais c'est moins.
Oui.
Correct, tu comprends.
Effectivement. Hey, écoute, justement, t'as parlé d'André Ducharme. André Ducharme. Je pense à
moi. RBO, t'écoutes?
Ben non, c'est ça. J'ai fait mon entrevue avec lui la semaine passée. Là, je veux dire, il continue à me hanter, mais je veux dire, Dominique Ducharme, son implication, puis surtout, en tout cas, évidemment, c'est des gérants d'estrade. Là, on s'entend sur les réseaux sociaux, plein de choses qui se disent. Là, mais tu sais, il y a des gens qui ont dit, bon, Dominique Ducharme vient de tomber de coach intérim à réellement le coach. L'entraîneur-chef du Canadien avec cette victoire-là contre Toronto. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
C'est pas fait. C'est pas fait. Je pense qu'on a vu la face de Marc Bergevin à la fin de la série, à quel point il était content et à quel point il est allé voir, non pas son coach, mais son goaler.
Son gardien, oui.
C'est la première personne qui s'est allée visiter, c'est son gardien. Je pense que Marc Bergevin tient énormément ce que Carey Price performe parce que ça met une certaine sécurité sur son propre emploi. On a annoncé haut et fort qu'on avait bâti le Canadien pour les séries. C'est Marc Bergevin l'a dit à multiples reprises dans la saison. Pour le moment, il le démontre. Reste à voir comment ça va aller face aux Jets. Là, si on s'attend à avoir le même style d'hockey contre les Jets, je vous annonce qu'on va être surpris.
Oui, oui, oui. Non, les Jets sont affamés. Ça fait quand même 2 ans qu'ils sont, on va dire qu'ils sont décevant, on va dire, en série. Là, on s'attendait à beaucoup mieux de la part de cette équipe-là. Il y a beaucoup de talent offensif. Quand même des gros joueurs, ça frappe énormément. Puis évidemment, Hellebuck qui n'est pas un mauvais gardien non plus. Donc, il faut s'attendre à une série, oui, qui risque d'être assez longue là, contre les Jets.
Ben, soit assez longue ou très rapide du côté des Jets. Je pensais que tu l'as dit, le Connor Hellebuck va être un joueur. Tu sais, on parle d'un gardien qui est peut-être plus du calibre. Tu sais, Jack Campbell était bon, mais était très jeune.
Ouais.
Lui a pris beaucoup de parts de blâme dans la défaite. Je le trouve très courageux de le faire, puis très humble. Mais je pense pas qu'il soit la principale raison de cette défaillance-là. Mais tu sais, tu l'as dit, là, les Jets, ça cogne plus fort, ça brasse un peu plus. Les attaquants, on a plus de profondeur. On n'a pas juste Matthews puis Marner. Tu sais, on en a d'autres. C'est Pierre-Luc Dubois, Mark Scheifele, Nicolas Yellers. On a beaucoup d'attaquants qui peuvent générer de l'offensive. Blake Wheeler aussi. Fait que j'ai hâte de voir comment on va être capable de répondre parce que là, Dano ne peut pas jouer contre trois trios. Là.
Non, exact. Là, c'est ça. C'est ça qui arrive. Toronto, tu jouais contre deux trios. Ben, un trio et demi, on va dire ça comme ça. Là, les Jets, exact. Tu joues contre trois trios. Là. C'est une autre façon de préparer ces matchs, mettons, du côté de l'entraîneur et aussi du reste de l'équipe. Là.
Exact. Là, j'ai hâte de voir comment la défensive va répondre à cet échec avant plus soutenu que ceux de Toronto. T'sais, les Jets ont un échec avant qui est plus constant, qui est plus physique. Les petits attaquants du Canadien vont se faire brasser dans un coin aussi. Donc, ça ne sera pas du tout le même type de match. Fait que si les gens, l'équipe du Canadien se prépare de la même façon, c'est sûr que là, on va frapper un mur vite fait, bien fait. Mais j'ai hâte de voir justement les ajustements qu'il va porter Dominique Ducharme à son line-up. Puis, faut pas sous-estimer aussi une autre chose.
Carey Price.
L'apport du leadership.
Ouais.
T'sais, Eric Staal met pas des goals au compteur. Là. Corey Perry en a mis deux dans la série. Des gros buts, des buts importants, et toujours bien positionné. Mais c'est des gars qui, quand ils parlent dans le vestiaire, ça a de l'ampleur. On avait juste Shea Weber qui était ce type de leader charismatique-là. Là, avec Corey Perry puis Eric Starr, qui tous les deux ont gagné, by the way.
Oui, oui.
On a comme un peu plus d'emphase au niveau du leadership, puis de calmer nos jeunes lions en Suzuki, Caulfield, Kotkaniemi, qui on le sait, là, c'est la relève du Canadien, c'est le futur du Canadien, mais ils ont besoin d'être calmés, d'être OK, hey, les boys, c'est pas grave, on se calme, on prend. Kotkaniemi va avoir une grosse, grosse job là, de défensive, d'après moi, qui va lui être donnée. Je m'attends à voir Kotkaniemi jouer des grosses minutes en défensive, entre autres peut-être contre Pierre-Luc Dubois. Peut-être quelquefois contre la ligne de Scheifele, genre de voir comment on va gérer le temps de glace de Kotkaniemi, mais je pense que de lui et Suzuki, c'est peut-être lui qui a le plus d'aptitude défensive, a gagné beaucoup, beaucoup de batailles dans la première série, a été très, très impliqué sur les bandes, sur la périphérie, comme dirait notre ami Danny Dubé, là. Mais c'est des petits éléments comme ça qui vont faire une grosse différence pour le Canadien, je pense, face aux Jets. S'ils veulent l'emporter, il faudra vraiment venir menotter les centres là aussi.
Hey, Perry à 800 000 par année, moi, n'importe quand, hein, même avec l'Avalanche, là, s'il y avait de la place dans le line-up, là, un gars d'expérience comme ça qui s'est rendu en finale l'année passée, qui, tu sais, je veux dire, c'est pas un pied de céleri, là, tu sais, je veux dire, il était avec Anaheim, c'était un des top scoreurs de la Ligue, il était toujours dans le top 10, top 15, en tout cas, dans ses plus grosses années de carrière, mais quand même, il sait comment la mettre dedans, il sait comment que ça fonctionne, il connaît la game, puis en plus, il connaît ça, les séries. Il a gagné la Coupe, je pense, deux fois, si je me trompe pas. Je veux dire, il n'y a pas de prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour avoir un joueur qui a de l'expérience, qui a déjà gagné la Coupe. Puis ça, c'est peut-être la chose qui manque du côté de l'Avalanche. Oui, on a du talent, on est jeune, on a, tu sais, ça sort par les oreilles. Tu sais, Brandon Saad, je comprends, là, on a été chercher pour ça, là, mais j'aurais été chercher un Corey Perry de plus, là, tu sais, un vétéran là, qui connaît tous les trucs, là, qui justement, qui va calmer les jeunes. Mais en tout cas, on verra bien pour la suite des choses. En terminant avec le Canadien, parce qu'on va faire un petit tour rapide des autres séries, 8 000 $ pour un billet du Canadien lors du dernier match. On va se le dire, c'est de la folie mentale. Là. Je comprends là, qu'on aime ce sport-là, mais 8 000 $, je gagne même pas ça. Je gagne tout ça dans un mois, mais même pas. Tu sais, à un moment donné, là, c'est quelque chose.
D'un, je suis très content de savoir qu'il a fallu que tu réfléchisses. Tu gagnes 8 000 $ par mois, Mike. Je suis quand même content pour toi, là, parce que c'est une bonne équation. Là. C'est quand même 96 000 annuels.
Oui.
Il a fallu que tu réfléchisses. Ah non, j'étais à 92. Quelques petites hésitations. Je t'annonce que ça va continuer à monter. Là.
Aïe,
la folie post-covidienne a aussi atteint le prix des billets d'hockey. De on était une des dernières provinces à autoriser le retour des gens dans les arénas. Tu as 2 500 places dans ton amphithéâtre de 18 000 places pour que tu rentabilises. Les gens vont vouloir vivre, vont vouloir sortir. Fait que c'est sûr que la revente va exploser là aussi. Je serais pas surpris de voir des billets à 10 000, 12 000 dans les prochaines séries.
Hallucinant. Puis dire qu'il y en a qui disent qu'on est dans une dictature sanitaire. Imaginez.
Oui, c'est ça.
La seule province au Canada qu'on peut écouter un match de hockey live dans une aréna, mais c'est nous la dictature. C'est assez incroyable. Quand
là, du côté de Winnipeg, on va avoir droit aussi. Là. On aura des fans à Winnipeg.
Ah oui? Ah, cool.
Oui.
Cool. On parle de combien? 2005 aussi ou plus?
Je pense que c'est ça aussi. Là. J'ai pas vu les enchères, mais j'ai vu justement que les fans allaient être approuvés du côté de Winnipeg. Fait que le hockey va jouer devant du monde au Canada.
Wow! Très cool, très cool. Un peu d'ambiance aussi dans tant de séries, ça fait du bien. Hey, rapidement, les deux autres séries. On a parlé de l'Avalanche en masse. Le Lightning qui a déjà pris les commandes contre les Hurricanes. Est-ce qu'on peut parler de manque d'expérience du côté des Hurricanes, même si on a énormément de talent?
Je pense, oui, mais je pense surtout qu'on peut parler de vitesse de pointe pour le Lightning. On a pris nos aises dans la première série, on a repris nos jambes de hockey de série, puis là, on est sur notre parvalise.
Comment il s'appelle le gardien des Hurricanes? Je sais même pas c'est qui.
Hey, c'est une excellente question.
En tout cas, il a l'air d'avoir une grosse saison, mais moi, j'ai vu le but gagnant du Lightning lors du dernier match. Je vais dire une affaire, un Pee-wee a raté ce lancer-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Là. Il a comme glissé, il était comme sur le long de son poteau.
C'est James Reimer puis Nedeljkovic,
okay.
qui est un jeune gardien. Là, c'est lui qui est le gardien partant, là, qui est Nedeljkovic, qui est le jeune gardien des Hurricanes de la Caroline. C'est Alex, son petit nom.
Okay.
Un gardien de 25 ans. Fait qu'effectivement, pas un gardien excessivement expérimenté. Fait qu'il peut vite se trouver dans une situation qui va un peu paniquer. L'autre côté, t'as Vasilevski, là, qui devrait remporter le Vezina, à mon avis. Là. Sinon,
ouais.
C'est pas lui qui gagne. Ça devrait aller à Marc-André Fleury avec les Golden Knights. Là. Mais je pense que le Lightning aura trouvé sa vitesse d'aller, son air d'aller de série, là, devrait aisément passer au Dodger Games, peut-être en 5, à mon avis, pour pouvoir tranquillement aller patienter pour les Islanders.
Yes, juste. Oh, OK, donc tu te mouilles déjà. Islanders, tu penses que les Islanders vont passer au travers des Bruins dans l'autre série?
Je pense que oui, mais on en avait parlé il y a de ça quelques semaines, que j'aimais beaucoup les Islanders, que je les donnais gagnants contre les Penguins de Pittsburgh, puis tu sais, j'étais content de voir comment on a réagi à Sidney Crosby. Là aussi, on l'a muselé. J'aime beaucoup la diversité de l'offensive des Islanders.
Ouais.
Tu sais, Matthew Barzal est bon, mais là, c'est drôle de voir Jordan Eberle et Taylor Hall s'affronter en série alors que les Oilers sont éliminés. Il y a une petite douleur pour les fans des Oilers, mais j'aime beaucoup justement la façon dont les Islanders jouent leur hockey. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que je vois du côté de Long Island. D'où là ma prédiction de peut-être sortir les Bruins. Les Bruins ont une première série motive face à Zdeno Chara, mais on a quand même, tu sais, on commence à voir la lourdeur des jambes des vieux Bruins.
Ouais.
Il y a moins de jeunes, il y a moins de vitesse. Oui, il y a Pasternak qui est encore dangereux quand tu le mets tout seul à l'aise sur l'oreille puis tu peux prendre des shots, là. Mais si tu viens réussir à couper cette ligne de passe efficacement et tu viens de diminuer beaucoup, beaucoup les risques d'offensive des Bruins, Brad Marchand est moins dérangeant qu'il l'était. Patrice Bergeron demeure encore excellent, mais il peut pas tout faire à lui tout seul. Puis il y a moins une touche, il y a moins la touche clutch que je trouve qu'il avait par le passé. Là. Fait que je trouve que les jambes un peu plus lourdes et vieillissantes des Bruins vont trouver un peu sur Red contre les Islanders. Mais écoutez, c'est les séries, tout peut arriver, mais je serais pas surpris de voir les Islanders sortir de cette série, effectivement.
Yes, rapidement, l'Avalanche contre les Vegas. Qui va sortir gagnant de cette série-là, puis en combien de matchs? L'Avalanche, oui? Ça se rend-tu au bout?
L'Avalanche en 6 contre les Golden Knights, parce que les Golden Knights ne donnent jamais facilement leur peau. Donc en 6, Marc-André Fleury va revenir, va probablement prendre la barre des 5 prochains matchs, là, va faire son possible. Mais comme je disais, tout va vite. La défense, la relance, l'attaque, tout est très rapide du côté de l'Avalanche. Grubauer va être motivé, va être craqué justement pour sa nomination, sa première nomination pour le Vézina. Contre Fleury, de justement montrer peut-être lequel des deux gardiens. C'est une espèce de guerre d'ego qui va se faire entre les deux Cerbères. Mais j'aime beaucoup l'offensive, la vitesse d'exécution, la précision des passes, la relance puis la mobilité des défenseurs de l'Avalanche.
Oui, puis Reeves qui est pas là aussi pendant deux matchs, lors du match 2 et 3, ça a l'air de rien, mais un joueur de même qui est pas dans l'alignement, mais tes joueurs, ils perdent tout un pied. Là. T'sais, on sait que quand t'as un Reeves dans ton alignement, tu te sens plus gros, tu te sens plus fort, tu te sens plus confiant. Là, il est pas là. Oups! Là, tu recules un peu plus. Moins de coups d'épaule, moins de... Donc, psychologiquement, ça va avoir un effet. Moi aussi, je pense que l'Avalanche va y aller en 6, va gagner ça en 6. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. Puis finalement, Canadien Jets, est-ce que tu penses que le Canadien va créer la surprise de se rendre en troisième ronde?
Je pense que ça va se finir en 6 matchs à l'avantage des Jets.
OK. OK, donc Canadiens, ils ont quand même été au-delà de ce qu'on pensait, mais quand même, 6 matchs contre les Jets, ça va être une bonne série. Ça va être intéressant, j'ai hâte de voir ça.
Tu sais, je pense que justement, Dominique Ducharme est un bon coach. Là. C'est un coach qui a coaché à plusieurs niveaux. C'est un coach qui a tout le temps su s'adapter. Je pense qu'il va être encore capable de s'adapter. Les jeunes loups, là, les Suzuki, les Kotkaniemi, les Kotro, devraient avoir un peu plus de glace, devraient avoir un peu plus d'assurance, mais on va se faire frapper. Tu sais, Edmundston... Weber puis Chariot, là, ils peuvent pas tout faire. T'sais, Chariot va probablement avoir une espèce de coup entre les dents parce qu'il est contre son ancienne formation. Mais je pense pas que ça va être suffisant là, pour arrêter les Jets là, qui risquent d'être un peu plus en mode. Surtout qu'ils ils sont reposés, ils sont pleins d'énergie, ils vont sortir comme un train probablement, même avec beaucoup d'intensité. Ils risquent de frapper beaucoup, beaucoup les attaquants du Canadien. Puis on a beau dire, on a des petits attaquants rapides, toute l'équipe sont capables d'en prendre, mais à coup d'épaule, à un moment donné, tu finis toujours par avancer.
Ah, c'est clair. Puis pour la première fois de ma vie depuis 1993, ça me vieillit un peu, mais je vais suivre une série complète du Canadien de Montréal. On sait qu'en 93, il avait affronté les Nordiques de Québec. Pour les plus jeunes, ça, c'est une équipe qui avait... OK, laisse faire. Mais
sortait de l'AMH.
Mais non, c'est ça. Je vais prendre pour l'Avalanche. Moi, pour l'Avalanche, oui, évidemment, je prends pour l'Avalanche,
mais
je vais prendre pour le Canadien. Je vais prendre pour le Canadien parce que je dirais qu'en troisième ronde, je préférerais affronter le Canadien, même avec Carey Price, juste pour leur jeunesse et tout, là. En troisième ronde, pour nous donner une petite chance d'aller en finale. Parce que contre les Jets, c'est vrai que ça sera pas facile. Tout dépendant de la série contre Montréal, là, mais c'est une équipe qui est embêtante. Moi, les Jets, c'est un peu comme les Wild du Minnesota. Je sais pas pourquoi. À toutes les fois qu'on les affronte, même en saison régulière, j'ai toujours un doute. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas comme on veut, où ils réussissent à s'adapter ou à contrer les attaques. Ou à... En tout cas, c'est le genre d'équipe que je veux jamais affronter en série. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Bon,
Tu t'en parlais avec les Oilers d'Edmonton qui aiment ça affronter les Jets.
Hey, quatre matchs, hein? Oh, ça a été expéditif, comme dirait l'autre. Hey, merci beaucoup, PS Gauthier. Évidemment, on s'en jaser probablement dans deux semaines, à peu près, là, tout dépendant comment que ça va aller au niveau de la deuxième ronde. On va se lancer vers la troisième et évidemment la finale. On va se lancer là-dessus.
Ça me fera plaisir, mon ami.
Salut, man. À la prochaine. Salut. Yes, c'était PS Gauthier en direct de son téléphone qui est avec nous pour parler de hockey, évidemment, en début d'émission. C'était le gros talk of the town, on va se le dire. Là. Montréal, c'était fou, là. C'était fou raide. Je suis pas un fan du Canadien. Je pense que vous le savez, je déteste le Canadien, mais j'aime pas beaucoup plus Toronto, je vous dirais. Juste par l'attitude, Austin Matthews, tout. Je sais pas, j'aime pas beaucoup l'attitude de cette équipe-là. Puis je vais vous dire une chose, les deux derniers matchs, je les ai écoutés, puis je souhaitais que le Canadien gagne. Pour une seule chose, parce que même si les billets coûtent 8 000, puis je trouve ça aberrant, c'est cool. C'est cool qu'il y avait du monde dans les estrades. Tu sais, on était les premiers au Canada à avoir des gens dans la foule. Là. Je veux dire, dans 2500 personnes, c'est rien dans le Centre Bell, mais c'était quand même un début. Donc, on commence à voir la lumière au bout du tunnel, puis ça fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir ça, puis de savoir qu'il y a encore au moins, au minimum, deux autres matchs qui vont avoir lieu à Montréal, même si les billets coûtent 10 000. Mais écoutez, si les gens sont capables de se le payer, ben tant mieux, profitez-en. On sait jamais quand est-ce que ça arrête. Voilà. Hey, c'est le moment où on va remercier les gens qui ont de l'argent. C'est ça, nos patrons.
Merci, patron. Merci, patron. Merci, patron. Travailler pour vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron. Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé là, ça a comme sauté. Moi puis mes extraits audio, c'est des 45 tours. Voyons donc. Ça, les jeunes, les 45... Ah, laisse ça faire. Donc, oui, c'est le moment de remercier ces gens qui contribuent volontairement et monétairement au succès du Supermatozoïde. Et on les appelle affectueusement les patrons. Eh bien, oui, on va remercier ceux qui donnent 2 $ par mois. Monsieur Mathieu, qui est là. Il y a Max. Merci aussi à Geneviève, à Daniel. Et finalement, on va remercier ceux qui donnent 5 $ par mois. Je les appelle les prospects. Donc, il y a Spa, Sonia, il y a Rock, Robert, Rémi, il y a Nathalie, Nancy, Mélanie. Merci à Mylène, Morel, Martin, Marilyn. Merci aussi à l'Authentique Podcast. Merci à Carl, à Julie. Merci à Julie. À Jocelyn, merci à Jean-François, merci à Jean, merci à Jean, merci à Michael Tracker, merci à Yann, merci à Pétanque, merci à Guillaume aussi qui est tout nouveau. Il y en a eu quelques nouveaux au cours des dernières semaines, c'est vrai, salut. Merci à Frankie, merci à Frank, merci à Francis, merci à Francis, merci à Eric, merci à Denis qui est de retour, merci beaucoup Denis, merci à Daniel et merci à Benoît, Apollo 13, André. Et finalement, on remercie ceux qui donnent 10 $ par mois, donc je les appelle les full patch. Donc, merci à Stu, merci à Robert, merci à David. Et finalement, merci à mes 3 membres premium qui donnent 20 $ par mois. Donc, merci à Sylvain, à Martin et à Carl. Voilà. Donc, ça sert à quoi d'être patron du Supermatozoïde? Ben, ça sert à donner de l'argent puis rien avoir en retour parce que, Caroline, ça fait longtemps que je vous ai pas mis des vieilles émissions. D'habitude, je mets des émissions vintage ou là, il y a le variant qui est parti, que je vais vous faire une émission aussi en fin de semaine qui s'en vient, probablement dimanche en fin d'après-midi. Je devais en faire une la semaine passée. Mais tabarouette, quand j'ai les enfants, j'ai pas le temps. Je suis désolé, j'ai vraiment pas le temps de faire des émissions du variant lorsque j'ai les enfants, mais là, ça s'en vient, là, je vais avoir du temps, là, je vais pouvoir vous en faire une en fin de semaine prochaine, on va s'amuser, et c'est ça, c'est pas mal ça, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, donc si ça vous tente de contribuer, patreon.com/matoradio, ça va être ça, donc vous pouvez donner 2 $, 5 $, 10 $, 20 $ par mois, et le pire là-dedans, c'est que vous pouvez vous retirer quand vous voulez, hein, c'est ça, c'est pas un engagement à vie. Hein, puis ça aide un créateur de contenu comme moi. Hein? Ben oui, c'est ça. Hey, sérieusement, probablement jeudi, je vais vous envoyer des épisodes de un podcast presque parfait et des épisodes vintage aussi du Supermatozoïde. Donc, regardez ça sur patreon.com/matoradio. Vous allez voir ça. Des nouveaux épisodes. Voilà. Hey, c'est le moment de l'émission où on va aller parler de complotistes, de d'actualité. C'est le moment où on se gruge les ongles un petit peu, hein, comme disait ma grand-mère. On va aller rejoindre Steve et fouiller un peu dans sa poche. Salut, man. Comment ça va?
Bonjour, ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien, ça va bien. As-tu passé une belle semaine, Steve, en tant que homme déconfiné et n'ayant plus de couvre-feu?
Ah oui, c'était magnifique. J'ai enfin pu aller me promener après 9h30. J'avais aucun problème de digestion par la suite. C'était parfait.
C'est incroyable, pareil. Hein, tu sais. Toi, je pose la question. Est-ce que tu connais Tristan Bavaria, toi?
Non.
Ben, c'est ce que je pensais aussi. Parfait. Donc, t'écouteras le début de l'émission.
C'est bon.
Hey, on commence avec quoi cette semaine? Est-ce que tu veux nous parler de Justin Trudeau qui boite en ce moment puis qu'il s'en va directement vers Guantanamo? T'es-tu au courant de ça?
Ouais, je suis au courant. Je suis connecté, moi, là.
Oui, oui, non, je sais. C'est pour ça que je te pose la question, là. T'es-tu...
Ben, en fait, Justin Trudeau, il est déjà à Guantanamo, Mike.
Ah, OK. Donc...
Ça, c'est un clone, en fait. C'est Donald Trump. Qui a pris la place de Justin Trudeau. Je sais pas si tu as déjà vu le film Face Off.
Oui, oui, oui.
C'est ça qu'ils ont fait avec une nouvelle technologie.
Ah, OK. Donc, c'est ça. Ils se sont switchés la face, puis c'est ça. Hey, c'est ça. Je veux dire, il y a une femme comparée à l'autre qui doit être moins contente. Mettons, ça doit être moins dur d'un bord que de l'autre.
Ah, peut-être.
On s'est demandé pourquoi Mélania restait avec Donald. On commence à savoir pourquoi, là. Elle n'est pas réellement avec Donald. Ah, OK.
Ah, mais tu sais, le monde qui écoute, ils vont peut-être dire, oui, ils sont bien idiots, mais c'est des choses qu'on retrouve sur Internet en ce moment.
Oui, non, non. On n'invente rien, là. On n'invente rien. C'est ça qui est le plus drôle là-dedans. T'sais, ils vont dire, ouais, vous riez de nous autres. Non, on ne rit pas de vous autres. Peut-être un peu, mais on n'invente rien. J'aimerais savoir des bonnes idées de même. Moi, je manque d'intelligence. Je sais pas. Je manque de.
Non, puis tu sais, c'était la même chose quand il y a eu le tremblement de terre, le quoi, 2-3 semaines.
Ouais.
Mais en fait, la vraie raison, c'était à cause qu'il y avait des bombardements. Tu sais, fait que c'est intense. Là, au moins, ils ont beaucoup d'imagination. Puis dès qu'il arrive de quoi, ils sont capables de trouver une raison. Fait que c'est le fun.
Alors, l'important, c'est qu'ils ont du fun dans leur tête. Moi, je suis rendu là. Moi, ils viennent plus m'écœurer, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis en plus, ils ont l'air d'avoir du fun dans leur tête. Fait que, tant mieux. Je suis content pour vous autres. Ouais, si vous êtes heureux.
Ben, justement, pour faire un petit lien avec les gens qui aiment le complot, on va parler de M. Goudzot. Ça rime.
Hein?
Mais ouais, je sais pas si tu as vu, parce qu'on sait que Goudzot, il y a peut-être quelques mois, avait affiché un film... qui était anti-avortement.
Quelques années, mais ça doit faire 2 ans de ça.
Non, il en a refait un, pendant la pandémie, là, un petit peu avant.
Okay.
Il est de même.
Oui, lui, il aime ça, les choses qui se répètent.
Oui, mais là, cette semaine, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il allait projeter sur ses écrans le film, le documentaire Hold Up.
Ah non.
Je sais pas si tu as entendu parler un petit peu de ce documentaire-là.
Ben oui, un documentaire, là, on va le dire, là, ça s'appelle carrément comme ça. Là.
C'est vraiment ça. Puis lui, la raison qu'il donne, c'est que c'est pour la liberté d'expression, puis il y a eu une demande pour ça.
Ah, OK.
Hey, hein?
Donc on doit. Attends un peu, si je comprends sa logique, on doit donc légaliser la pédophilie sur Internet parce qu'il y a une demande pour ça. Si on comprend là, concrètement, il y a encore des pédophiles. Donc, OK. Donc, ça fonctionne de même. S'il y a une demande pour quelque chose, on se doit de le faire.
Ouais, fait que j'imagine que si toi puis moi, on fait un documentaire puis qu'il y a plein de monde qui le demande, ben, il va accepter de le projeter sur ses écrans.
Là. J'espère. Ben, ça sera moins des choses, là. Je veux dire, on est des citoyens du monde, là. Il y a une demande pour ça. Fait que.
Ouais.
Non, mais.
C'est juste pour
tout le monde. Ouais. J'ai le goût de l'essayer. On fait quelque chose. On fait un film, aussi minable soit-il, puis on demande à tout le monde d'écrire à Goudzot de le présenter dans ses salles. Puis on dit qu'il y a un besoin pour ça. Il y a une demande.
Ouais, c'est pour la liberté d'expression.
En échange, ben, on se met tout en soutien-gorge pour on va manger du popcorn dans son cinéma.
Il va aimer ça, ça va.
Ben oui, c'est ça, ça ressemble à ses publicités qu'il fait. Okay.
Mais tu sais, pour les gens qui se demandent c'est quoi ce film-là, je vais juste vous donner quelques, tu sais, il y a quelques trucs, là, mais il y en a énormément des mensonges. C'est sûr que ça parle de la pandémie. Fait que là, pour eux autres, par exemple, dans le documentaire, ils disent que le virus de la COVID-19, il a été fabriqué dans un laboratoire par l'Institut Pasteur il y a des années.
Ah, ben oui. Il l'appelle Louis Pasteur, c'est lui, là? C'est-tu lui?
Oui, c'est bien ça. Ah. C'est lui qui a inventé ça.
Je sais qu'il a inventé. Lui a aidé beaucoup la pasteurisation, là, tu sais, pour les microbes et tout, là.
Ouais. Un autre aussi ridicule. En France, les patients âgés atteints de la COVID-19, ben, eux autres ont reçu une seringue de Rivotril pour les achever complètement alors qu'ils étaient en détresse respiratoire.
Ça doit être les personnes âgées qui écoutent pas Tristan Bavaria, justement, parce que Tristan Bavaria, lui, a dit cette semaine, en sacrant, gros comme le bras, hein, là, les vieux, tabarnak, enlevez vos masques, puis allez serrer vos enfants. Ça, c'est un animateur de Call TV, by the way, je te mets à jour un peu, là.
Ben oui.
Lui, il a décidé que c'est ça, il voulait montrer son intelligence, puis son savoir-vivre, puis il a dit aux vieux, ben, c'est à cause de vous autres, calice, puis on va s'en sortir, puis allez embrasser vos enfants, puis... Tu sais, un bel exemple de respect envers les personnes âgées. Donc, là, semblerait-il qu'on les achève, les personnes âgées,
ouais,
finalement?
Il y a eu des meurtres de même, à ciel ouvert, puis il n'y avait pas de problème. Là,
ben oui, on le sait. Je veux dire, c'est facile.
Ça, c'est juste des exemples.
C'est facile d'éliminer du monde comme ça. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas rien. T'sais, personne ne s'en rend compte. Dans leur tête, c'est tellement facile. C'est incroyable.
Ouais, puis tu sais, ça c'est juste quelques petits exemples, mais il y en a comme plus d'une quarantaine des mensonges dans ce documentaire-là. Tu sais, honnêtement, là, c'est rendu là, ça revient tout le temps à la fausse raison, c'est la liberté d'expression. C'est pas de la liberté d'expression, ça, là.
C'est de la désinformation.
Mais ouais, c'est de la désinformation pure et dure. Puis Goudzio qui veut présenter ça, là, on le sait, c'est pourquoi, c'est parce que tu crois ça à un moment donné, là. Faut pas, tu sais, il y a aucune demande pour ce film-là. Autre que ceux qui croient à ces informations-là au Québec, c'est des complotistes. Là, honnêtement,
ouais.
Pour 1 plus 1, ça fait 2. Là, en tout cas, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça me semble que on n'a pas besoin de ça en ce moment, alors que on s'en va du bon bord. Là, mais maintenant, on va être dans le jaune, toi puis moi, tu réalises-tu?
Ben oui, je sais. Moi, je le réalise. Moi, je suis super content. Je l'ai dit dans l'intro, je suis de bonne humeur, puis je saute partout. Puis moi aussi, à 9h32, je cours partout dans les rues, puis j'enlève mon linge. Mais tu sais, quand tu dis qu'il n'y a pas de demande pour ça, on dirait que j'en doute. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de films. On s'entend pas beaucoup de sorties de cinéma encore, là. Puis deuxièmement, je suis convaincu que là, ça va se parler, là. Puis là, il va s'organiser une gang de complotistes qui vont se faire une espèce de get-together là, dans le stationnement, tout le monde ensemble avec des Facebook Live. Ils vont aller écouter le film, puis ils vont aller mettre de l'argent dans les poches de Monsieur Goudzio. Ça sera un win-win situation. Mais tu sais, ils vont rester dans leur chambre à écho, sauf qu'au lieu d'être une chambre, c'est une salle de cinéma. Je veux dire, Monsieur, Madame, tout le monde n'ira pas voir ce film-là. Là. En tout cas, si vous y allez, là, mettez-vous un casque de foil, parce que ça va être rempli de complotistes là-dedans. Là.
Oh oui, ça va être quelque chose. Les cheveux vont, il va peut-être plus vous en rester à la fin.
Ouais, effectivement.
Fait que ça, c'était par la partie complotiste. Le reste, c'est beaucoup de choses un petit peu de varia.
Ah, OK.
Mais il y a quelque chose de très important, quelque chose qui me touche quand même à cœur, puis je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est sûr que c'est encore en lien avec le système de santé. Mais tu sais, depuis quelques années, Mike, t'es quand même conscient qu'on parle beaucoup de la santé mentale, puis qu'il y a beaucoup de... Le gouvernement a mis l'emphase là-dessus, il y a beaucoup de pubs, tu sais, il y a Bell qui fait belle cause, puis tu sais, on entend parler pratiquement à chaque semaine de la santé mentale.
Oui.
Mais dans les faits, sur le terrain, c'est comme le reste, c'est difficile d'avoir accès à des soins.
OK.
En ce moment, il y a 20 000 personnes qui sont sur une liste d'attente en soins, pour avoir des soins en santé mentale.
Là, tu parles de ça, santé mentale, tu parles de gens qui ont des n'importe quel problème de santé mentale. C'est pas juste des gens en détresse.
Il y a beaucoup de gens en détresse là-dedans, mais n'importe quel... Tu sais, parce que le problème là-dedans, c'est que un problème de santé mentale, si c'est pas traité rapidement, c'est clair que ça va s'aggraver.
Ouais.
Tu sais, c'est pas de quoi que... Ah, OK, on a mis un petit pansement dessus, puis ça va aller mieux avec le temps, même si ça peut être un peu long. Non. Là, ça va s'aggraver automatiquement.
Je sais qu'il y a beaucoup de médicaments qui se vendent, là. Tu sais, actuellement, je veux dire, les compagnies pharmaceutiques, là, oubliez Big Pharma et tout, là, ils n'ont pas besoin du vaccin pour faire des milliards, là.
C'est bon, non.
Tu sais, je veux dire, juste les médicaments, les antidépressifs et tout, là, ça va très bien, là. Je pense que ça s'égare bien les coffres des Big Pharma, comme vous dites, là.
Ouais, puis tu sais, honnêtement, pour avoir besoin de soins en ce moment, c'est pratiquement qu'il faut que tu sois en crise totale, puis que tu sois un danger pour ta vie. Et là, encore là, ils vont te mettre, par exemple, directement en lien avec avoir accès à un psychiatre. Sauf que ils vont quand même avoir un délai.
Non.
Tu sais, par exemple, si tu vas à l'hôpital, puis ils disent, OK, lui, il y a un danger pour sa vie, il faut absolument qu'il voit un psychiatre. Ben, tu vas peut-être avoir un rendez-vous 2 ou 3 mois plus tard.
C'est ça, il n'y a plus de prévention. On n'est plus capable de faire de la prévention. Là, si on fait juste l'intervention directe lorsqu'il est pratiquement trop tard. Puis c'est là que c'est décevant. Là. C'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été tuées dernièrement. Il y a beaucoup de pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de prévention. Il n'y a pas eu rien eu. Je veux dire, les gens sont tout seuls avec leur malheur, puis avec leurs problèmes mentaux, puis leur désespoir. Puis là, Caroline, à un moment donné, il va falloir se donner le droit de prévenir certaines affaires pour empêcher justement qu'il y ait des drames. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont en détresse. Il y a des gens qui créent des choses qui sont irréversibles, qui vont tuer des personnes ou qui vont agresser des personnes. Puis là, on va dire, ah ben, on aurait dû voir les choses aller. Mais c'est à cause que on n'est plus capable de faire de la prévention, on dirait. Le système de santé ou l'argent ou le personnel qui est en place ne peut plus faire de prévention. C'est comme tu dis, il y a une liste d'attente de 20 000 personnes. Là. C'est un petit gros problème, mettons. Là.
Ah, puis tu sais, l'affaire, par exemple, quand tu as des problèmes de santé mentale, quand tu as besoin de soins, c'est pas un rendez-vous de 15 minutes, là, normalement, là, qui va régler la patente, là.
Ben, c'est comme un pétard avec une mèche. On sait pas quelle longueur qu'elle a, ta mèche. Donc, elle peut être bien courte puis ça explose, comme elle peut être bien longue pour te pogne à temps. T'sais, c'est un peu ça, là, le niveau de la détresse psychologique. En tout cas, moi, je vois ça comme ça, là, pour l'imager, là. Je sais pas si je suis dans le champ, mais.
C'est vraiment ça. Puis, honnêtement, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment se pencher, là. Puis, ça presse, c'est urgent. J'ai pas l'impression que c'est une des priorités encore. T'sais, par exemple, t'sais, juste voir les soins pour avoir un psychologue, mais ça passe pas sur la RAMQ, cela.
Ouais.
Pourtant, il arrête pas de dire que c'est important, mais on dirait que ça reste quand même secondaire quand t'es sur le plancher, là, la vraie vie. Là. C'est bien beau en parler, puis faire de la pub là-dessus, puis faites attention, demander de l'aide, mais quand t'appelles pour demander de l'aide, puis ils disent ben rappelez dans 3 mois. Là, en 3 mois, il peut s'en passer des affaires.
Mais là, actuellement, le gouvernement, ils ont les mains pleines. Là, ils sortent graduellement du COVID. Là, ils ont comme des mises de pression des infirmières, les professeurs d'école, de plein de syndicats comme ça qui leur rentrent dans les chevilles. Je pense pas qu'on va régler réellement des problèmes au cours des prochaines années. Je pense pas que la fin du mandat de la CAQ va être sous le signe du changement. Là. Je pense qu'on va juste tenter de d'éteindre des feux puis de régler des problèmes. Puis c'est ça. Je suis pas très positif pour la suite des choses. On parlait beaucoup que le gouvernement mettait des plasteurs puis ne réglait pas les problèmes avec des vraies solutions, des vraies guérisons. Je suis pas sûr qu'on s'en va dans cette direction-là avec toute la pression qui s'en vient. Parce que là, il y a des gens qui ont comme mâché leur gomme pendant des mois, puis même une année et demie à cause de la pandémie. Ils ont pas parlé, ils ont laissé le gouvernement aller, ils ont décidé de pas mettre de pression, mais là, on dirait que tout le monde met de la pression en même temps. Puis je suis pas sûr qu'il y a des affaires qui vont se régler au bout de la ligne.
Non, c'est sûr. Puis tu sais, ce qui est important là-dedans, c'est justement peut-être pour sensibiliser les gens encore plus, c'est que tu sais, ayez pas peur de demander de l'aide autour de vous. Tu sais, puis aussi, vous, par exemple, vous savez qu'il y a des gens autour de vous qui sont isolés, ben allez les voir parce que malheureusement, le système de santé va peut-être pas pouvoir les accueillir. Fait que c'est plate, mais ça revient à être entre nos mains là, de s'occuper de ça, surtout si on a des proches qui ont la difficulté.
Oui, il y a un auditeur qui m'avait écrit il y a plusieurs semaines en me disant « Hey Mike, tu sais, on avait eu quelqu'un qui, par rapport à voyons, le centre d'aide au suicide, on avait eu une intervenante par rapport à ça en entrevue, ou un intervenant, je me semble que c'était un monsieur. Puis, tu sais, 2 semaines ou 3 semaines après, j'ai eu quelqu'un qui m'a écrit personnellement pour me dire « Hey, cette entrevue-là, ça m'a ouvert les oreilles puis les yeux, puis j'ai découvert quelqu'un qui avait réellement un problème, j'ai été l'aider, puis je l'ai sauvé, cette personne-là. » Tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais, on est capable de faire une différence. Je dis pas de commencer à faire des justiciers, puis tu sais, de vous promener la nuit pour essayer de trouver des gens en détresse, là, c'est pas ça, là. Mais si on ouvre un peu les yeux et les oreilles, juste en regardant les réseaux sociaux, là, tu sais, il y en a qui lâchent des appels ou des signes, quoi que ce soit. Tu sais, un petit call, « Hey, ça va-tu? Je peux-tu t'aider? Appelle-moi. » Tu sais, quelque chose du genre, là. Juste pour voir à quel niveau cette détresse-là est importante. Puis peut-être que vous allez sauver cette personne-là. Moi, je l'ai fait une fois avec quelqu'un que je connaissais même pas. Puis parce qu'on gérait tous les deux une page de l'Avalanche. Puis je savais qu'il vivait une séparation. Puis c'était douloureux. Puis un soir, il a écrit de quoi, puis je trouvais que c'était pas douteux, mais je veux dire, je me questionnais, là, savoir, mon Dieu, il va-tu bien? Puis j'ai écrit en privé, puis Caroline, non, donne-moi ton numéro, je vais t'appeler, je veux juste voir comment que tu vas. Puis finalement, ben, le soir, il m'a dit, hey, merci. Il dit, je pensais pas nécessairement au suicide, mais je filais vraiment pas ce soir-là, puis ça m'a fait du bien. Mais ben, Chris, c'est ça, être un être humain. C'est pas de sauver la planète d'une dictature. C'est pas de faire des millions avec une fondation qui mène à rien. Je veux dire, être un être humain, c'est de d'improviser à chaque jour, puis de rester à l'éveil de son prochain, puis de dire, hey, lui, il a réellement besoin d'aide, je vais aider lui. Au lieu d'aider toute une province au complet, commence par aider une personne. qu'elle soit proche ou non de toi, c'est ça, être un être humain, justement.
Oui, c'est exactement. Je pourrais pas dire mieux, en fait.
C'est puis, ça, c'est la sagesse.
Ouais, c'est assez beau, mais c'est l'âge, hein? C'est
aussi, ça, aussi, mais je voulais ça. Pas le dire.
autre truc qui est aberrant dans notre système de santé, malheureusement, c'est que depuis les derniers mois, on entend beaucoup parler de CHSLD.
Oui.
Qui n'ont pas entendu parler des problèmes.
Les calices mais... de vieux, piquez-les tous.
Ouais, c'est ça.
Hein, Tristan?
Mais, ouais, Tristan, il les aime pas, je pense.
Non, non, mais un jour, c'est Tristan, ce qu'il sait pas, puis ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est qu'un jour, il va devenir vieux, lui aussi. J'espère être vivant pour le pointer du doigt, puis dire, ah ouais, chiller dans ta couche pleine de caca. Ah ouais, j'espère qu'ils te la changeront jamais.
Mais tu sais, une des choses qui a pas changé, c'est que la façon qu'on traite encore les personnes dans les CHSLD. D'après moi, je vais te l'apprendre, ce que je vais te dire là, mais est-ce que tu savais que, par exemple, l'été arrive, si par exemple, tu es une personne âgée dans un CHSLD, puis tu es à Montréal, puis tu veux te faire installer un climatiseur.
Ouais.
Est-ce que tu savais que l'État allait le payer, mais que si, par exemple, tu restes, par exemple, d'où tu viens, toi? Tu viens de la Côte-Nord, je me rappelle bien?
Oui.
Ben, si, là, justement, il y a là, quelqu'un dans un CHSLD qui a besoin d'un climatiseur, ben, il va falloir que la personne le paye. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il fait normalement moins chaud dans les régions comme ça.
OK. Donc, elle, le fait qu'elle s'est retrouvée à Montréal, bien qu'elle vienne de la Côte-Nord, elle aurait dû rester dans son coin parce que elle se fera pas payer de climatiseur.
Non, ça marche par région. Si ton CHSLD est à Montréal,
ah, OK.
Là, l'État le paye. Si ton CHSLD est dans un endroit, parce que normalement, il fait un peu plus froid, par exemple en Gaspésie, peu importe, mais là, eux autres, là, c'est l'usager qui doit payer.
Ouvre-le vite au pays. Le vent frais du nord.
Il n'y en a pas de canicule dans les autres places. Il fait jamais chaud, rien.
Mais je suis d'accord un peu avec le gouvernement. Je veux dire, la Côte-Nord, moi, je viens de là, puis il y a deux saisons. L'hiver passé, puis cet hiver. Mais, je veux dire, en été, il arrive deux semaines de chaleur puis de canicule aussi, comme le reste du Québec. Ouais, là, ouais. Évidemment, avec un clin d'œil. Je dis ça avec un clin d'œil là, pour mes amis de la Côte-Nord qui écoutent l'émission. Mais non, c'est ordinaire. Pourquoi,
ouais, c'est ordinaire.
Pourquoi plus un que l'autre? Là? Je veux dire, une personne en jeu qui est chaud puis que c'est humide, que ce soit pour quartier ou à Toronto, ou Chicoutimi, ou Montréal, ou Québec, ça reste la même canicule, là, on s'entend, là?
Non, mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, tu sais, il y a vraiment des gens qui sont assis derrière un bureau puis qui ont pensé à ça.
Ouais.
Tu sais, c'est pas genre, OK, gars, on va allouer X montant à toutes les personnes qui sont dans des CHSLD, puis s'ils veulent poser la climatisation, ben ça va être là, ça va être disponible.
Je sais pas, mais je sais pas comment ils font pour dormir. Je sais pas comment ils font pour dormir la nuit des fois, là. C'est, tu sais, je veux dire, on voit des fois des octrois qui sont faits à des entreprises, à des ci, à des ça. Là, tu parles d'êtres humains, comme je disais en début d'émission, qui ont payé toute leur vie dans notre société, qui ont contribué, je veux dire, à l'économie, à tout, là. Je veux dire, ils ont contribué. Puis ces gens-là, s'il y en avait qui étaient travaillants, là, c'est bien cette génération-là, là. Puis qui gagnaient pas des gros salaires, là. Puis ils chiolaient pas. Il chialait pas, il travaillait. Ça faisait partie de la vie. Mais là, quand c'est le temps de les aider, puis de leur payer un petit air climatisé, puis qu'il y ait au moins une fin de vie un peu digne, non. Non, toi, tu viens du Nord, tu étais en haut du 40e parallèle. Ah non, on ne paye pas d'air climatisé, toi, là. Tu ne le mérites pas. Non, on va payer ça. On va garder l'argent pour les gens, je veux dire, au Sud, là, ceux qui ont vraiment chaud. Là. C'est comme si tu séparais tes personnes âgées en deux, là, en deux groupes. C'est stupide. Ah, c'est ridicule.
C'est un exemple parfait de la bureaucratie inutile au Québec. Il y a vraiment des fonctionnaires qui sont assis et qui pensent ça, puis qu'ils divisent les personnes. À cet endroit-là, ça va être correct. À tel endroit, non. Pis ça n'a aucun sens. Puis... Tu sais, depuis le début de la pandémie, on parle de reset. Puis ça serait le genre de choses que tu pourrais dire, on efface, là, puis on recommence. Tu sais, c'est pas compliqué. Mais il me semble, là, comme plan, là, pour mettre de la climatisation dans un CHSLD ou dans un centre de personnes âgées. Mais non, c'est ça.
C'est comme si on disait, là, le vaccin est seulement accessible à Montréal. Parce que c'est carrément collé ses frontières ou ce que c'est fait. Le Côte-Nord, ça va coûter 3 000 $ de shipping par camion. Ah, c'est trop loin, on vaccinera pas les gens. De toute façon, il y en a pas de virus là-bas. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Jamais il aurait été là avec une pandémie. Là. Mais là, pourtant, pour l'acclimatiser, puis Dieu sait que c'est dur, c'est difficile sur le corps d'une personne âgée, là. Je veux dire, ça, on va faire deux gangs. Puis c'est drôle parce que moi, je parlais de ça avec ma femme il y a quelques semaines. Je me disais, Crime, j'ai peut-être le goût de... Tu sais, quand je vais vendre la maison, puis je vais partir, je vais peut-être me rapprocher de la mer, puis de la plage, puis de mes origines. Mon trou, il est déjà payé à part quartier au cimetière. Donc, tu sais, me rapprocher un peu de mon de mon trou, comme dirait l'autre. Mais Caroline, t'es en train de me dire que si je m'en vais dans un CHSLD, j'aurais pas d'air climatisé. Je suis bien de rester ici, moi, là.
Ouais, ben peut-être, puis rendu là, on sait même pas s'ils vont encore donner des soins. T'sais, peut-être qu'ils vont dire en région, vous avez plus de soins. On sait pas, rendu là, tu sais, mais ça change. Disons que ça va pas s'améliorer notre système. Fait que mal, on sait pas ce que ça va donner. Puis justement, directement à ça, on s'entend que c'est à cause de l'argent qu'ils font des règlements comme ben ça, oui. Puis que c'est mal géré. Mais tu sais, t'as sûrement vu dans les dernières semaines que le gouvernement fédéral avait fait une entente avec Air Canada.
Oui. Oui, oui.
Ils leur ont octroyé un prêt de 6 milliards de dollars. Oui. 6 milliards.
Un prêt.
Oui, un prêt. Mais tu sais, on s'entend qu'eux autres, ils ont les prêts lousses pas mal. Tu sais, c'est pas les mêmes prêts que toi puis moi, on aurait. Là.
Mm-hmm.
Ben, justement, ce qu'ont fait les dirigeants de Air Canada, c'est qu'ils se sont offerts des bonnies de 20 millions de dollars.
Ben oui, on a vu ça avec Bombardier aussi.
Ben oui.
Je sais pas. C'est malsain un petit peu de voir ça.
Ça n'a aucun sens. Puis
moi, j'ai pas de problème avec le prêt en tant que tel. Parce que je me dis qu'à un moment donné...
Ça allait les aider.
Ben non, c'est ça. Mais... Mais ça me semble que tu gardes une petite gêne après ça. Tu sais par où on a tout passé. Même toi, tu le sais, en tant que transporteur aérien, t'étais plus capable de rien vendre. Là, on te donne un petit coup de pouce, puis... En retour, tu décides de... Je sais pas, mais ça, je ferais ça en cachette. Je m'organiserais pas pour que personne le sache, parce que c'est malaisant.
C'est justement, ils l'ont fait en cachette. Ah. C'est juste que ça a été découvert parce que c'est une compagnie qui est publique.
Ça a été trouvé par les merdias, je te gage. Gang
ouais,
de
sans
dessin.
Puis tu sais, ce qui est fâchant là-dedans, c'est que Air Canada a pratiquement licencié le trois quarts de tous ses employés.
En plus, ouais.
Puis eux autres, ben justement, c'est un boni de performance parce qu'ils ont bien géré l'argent.
Ah ben oui.
Hey, hein? Bravo. c'est toutes des petites choses comme ça, c'est pour ça que ça... Tu sais, des fois, là, quand on parle des fois des prix, c'est intéressant, ça peut les aider, mais des compagnies comme ça, comme Air Canada, qui ont toujours agi juste pour eux autres, en se foutant des autres, je pense que c'est des compagnies qui devraient être sur une liste noire. Comme, gars, vous autres, là, on vous a déjà aidé. À chaque fois que vous faites des niaiseries, ben oubliez ça. Là.
Ouais, c'est comme Alexandre Taillefer. C'est facile de prendre des risques puis se donner des bonus ou de partir des entreprises quand c'est pas ton argent. Exactement. Je veux dire, quand ça allait pas bien, t'es au taxi. Combien de fois j'ai lancé l'appel à Alexandre Taillefer? Évidemment, il écoute pas le podcast, on s'entend, mais tu sais, sors-toi de la merde toi-même. Tu n'as eu de l'aide, tu n'as eu des prêts puis des dons puis des ci puis des ça. Fais-le. Au pire, ça fonctionne pas, ton idée puis ta vision. Peut-être que tu manques de vision, repars sur une autre vision, mais si tu veux garder la même vision, mais aie la vision de fouiller dans le fond de ta poche puis mettre ta propre argent là-dedans si tu veux continuer cette vision-là. Mais c'est un peu ça qui se passe actuellement avec le ce qu'on dit souvent le terme gouvernement, là, mais il y a beaucoup d'entreprises qui prennent ça pour acquis. Puis j'ai hâte qu'à un moment donné, il y ait un gouvernement qui fait comme... Puis là, dans le cas d'Air Canada, c'est autre chose, on s'entend, là. Mais tu sais, je vise plus le Québec, là. Qu'à un moment donné, il y a un gouvernement... Je pense que la CAQ l'avait fait, là, au début de la pandémie avec je me rappelle pas avec quelle entreprise, avait dit « Gars, on peut pas vous aider, là. » C'est plate, là, mais on garde notre argent pour ci, ça. Mais tu sais, j'ai hâte qu'on commence à dire des noms. Puis en disant, ben écoutez, on va travailler plutôt ensemble, on va vous envoyer des gens spécialisés qui vont travailler sur un plan de restructuration, parce que là, il n'y a pas de restructuration. On prend de l'argent, puis on donne des bonus aux boss. Ça marche pas, là. C'est pas de la restructuration. La restructuration, ça serait plutôt les boss qui font les coupures dans leur propre salaire pour pouvoir justement réengager des gens qui ont été licenciés quelques mois plus tôt, là. À moins que je connais rien aux affaires. Peut-être que je connais rien.
Mais, en fait, les contrats sont toujours mal faits. T'sais, tu devrais avoir une clause disant que si on s'aperçoit que vous avez reçu plus que X montant d'argent, on reprend le prêt ou on l'oblige à le payer sur le champ ou quoi que ce soit. T'sais, juste des trucs de même, mais on dirait que, comme tu dis, c'est quand c'est fait avec l'argent des autres, ben il y a des clauses que t'oublies de mettre. T'sais, justement, en lien avec l'argent aussi, je pense que je me rappelle pas si je pense c'est là, 3 semaines ou 1 mois, j'en avais déjà parlé. C'est qu'il commence à avoir de plus en plus des pénuries dans les CPE.
Oui.
Des places. Tu sais, moi, honnêtement, comme mon frère, il a eu une petite fille en début d'année. Puis, tu sais, là, il cherche une place pour dans un an. Puis, il y a des gens qui offrent des pots de vin aux garderies pour avoir une place. Il y a des CV de bébés. Tu réalises-tu, là? Ils font des CV de bébés.
Pas vrai.
Oui, mon enfant, ben, il s'appelle comme ça, il a tel âge, voilà son caractère, il a aucune allergie, toutes des affaires la même. Puis là, pour trouver des places. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que justement, il y a de moins en moins de places, puis la majorité, c'est des travailleuses. En CPE, ben, le salaire de départ, c'est 32 000 $.
Ouais.
Ouais. Tu sais, pour 32 000 $, leur responsabilité, c'est de s'occuper de nos enfants. Mm. Tu sais, ça, honnêtement, on commence à le voir, mais on va avoir le même problème qu'on a avec les préposés aux bénéficiaires. C'est pas assez rémunéré, c'est pas assez valorisé. Puis juste les gens vont justement pas aller vers ça.
Ouais, puis là, tu sais, on a beaucoup d'histoires là, tu sais, par rapport aux Amérindiens et tout là. Ah, ouais. Commence à faire des CV de bébés. Là, regarde bien, il y a une personne une personne noire qui va dire son enfant a pas été pris dans tel CPE parce que là son CV était moins bon que le sien, une famille. En tout cas, il va y avoir toutes sortes de styles d'histoires par rapport à ça, alors qu'on devrait juste avoir un système qui permet à tous les enfants d'avoir une place dans les CPE. Puis c'était ça le projet du gouvernement. Ouais. Je pense que c'est les libéraux qui avaient lancé ça, les CPE à 5 $, qui est devenu, ça a monté, je pense, à 9, là. Mais c'était ça le projet, que tous les parents puissent aller travailler, puis d'avoir des CPE qui s'occupent de leurs enfants, leur donner une bonne éducation, un bon repas, puis sans jugement, puis sans... C'est ça, c'est le Québec inclusif qu'on connaît dans un Canada fort et uni. Je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est ça la vision des gouvernements. Là, on commence à parler de CV de bébés. Calice, c'est des bébés, là. Ah, ben le mien, il capote sur Slipknot. Là. Ah non, on peut pas le prendre. Hey, c'est un fou, là. Son bébé écoute du heavy metal. Là. Non, ça va être du n'importe quoi. Ça va être du n'importe quoi. À cet âge-là,
faut pas oublier
qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le mien écoute pas Caillou, il écoute la patte patrouille. Je veux dire, c'est qu'est-ce que tu mets dans un CV de bébé, là?
Non, mais tu sais, faut pas oublier aussi qu'en plus, ces enfants-là qui ont pas de place de garderie, ça veut dire que c'est des parents qui travaillent pas.
Ben voilà, c'est sûr.
Fait que ça nous fait perdre de l'argent collectivement. Mais on n'est pas capable, comme le reste, d'adresser le problème rapidement. On attend toujours, on repousse. Puis gars, là, en ce moment, ben, il en manque de plus en plus. Puis dans 6 mois, ça va pas aller mieux. Puis, tu sais, honnêtement, c'est rendu qu'il y a des regroupements de gens qui essayent de s'entraider, là. Puis là, il y en a, par exemple, si t'as deux enfants, tu dis, bon, ben gars, je vais ouvrir une garderie à la maison. Mais là, tu peux pas, parce que tes deux propres enfants, ils comptent pour des places dans la garderie. Fait que là, à un moment donné, ça devient plus payant. Fait que tu sais, c'est toutes des choses de même ça revient encore au même point qu'avant, la bureaucratie.
Ouais.
C'est tout le temps, il y a quelqu'un qui est devant son pupitre qui dit, bon, OK, mettons qu'il y a une maman, elle s'occupe pas, elle serait excellente pour ouvrir une garderie en milieu familial, mais là, elle a déjà deux enfants. Ah, elle peut pas en avoir plus que 6, par exemple. Ben, fait que là, ça veut dire qu'elle peut juste en recevoir 4. Fait que là, à cause de ça, ben, les deux, tu sais, ces deux enfants, elle reçoit pas rien pour eux autres. Ben, à cause de ça, ben, c'est pas payant pour elle. Fait qu'elle l'ouvrira juste pas, sa garderie.
Ouais, mais en même temps, tant qu'à les garder gratuitement, tu sais, je dis gratuitement, qu'on garde pas ses propres enfants,
ben
c'est d'épais, là. Je sais pas ce que je viens de dire là, mais je veux dire, tu sais, tant qu'à être chez eux,
il devrait pas calculer dans le compte.
Ah non.
C'est ça que c'est je veux sûr. Dire, parce que, ou au pire, reçoit une subvention pour, parce qu'au final, ça coûte des places à des gens. Tu sais, où est-ce qu'on est rendu en ce moment pour aller chercher les deux places par-ci, les trois places par-là? Tu sais, si le système allait super bien, là, je pourrais comprendre, mais en ce moment, on court après des places. T'sais, honnêtement, là, moi, ma fille, ma plus vieille a 18 ans. Puis, le 18 ans, j'aurais pas imaginé faire des CV pour mon bébé, là.
Non, effectivement. Là, je sais pas si t'as entendu, il y a une petite sonnerie qui a sonné, là. L'as-tu entendu?
Oui, c'est quoi?
Ah, ça, c'est les seins à ma femme. Donc, elle va arriver bientôt, elle va venir se faire surveiller les seins. Parce que ça a pas rapport, là, je deviens plus léger, mettons, là. Mais là, je suis rendu un spécialiste observateur d'auréole mammaire depuis 2 jours.
Oh
donc,
boy.
Oui, parce que ma femme, elle a subi une diminution mammaire. Donc, à chaque 2 heures, j'ai une alarme qui sonne et c'est ça, c'est qu'il faut...
Faut t'aille analyser.
Ben oui, mais c'est genre, elle arrive et puis là, elle va arriver bientôt.
Là, je suis un peu sénère. Une petite question pour toi.
Oui?
Le surplus, tu l'as-tu gardé dans le congélateur?
Es-tu malade? Oui, on le donnait à quelqu'un qui en a besoin, là, je sais pas.
Mais, faites des dons. Okay.
Ben oui, on peut faire des dons. Fait des dons de cheveux, fait des dons de gros mammaire sûrement. Là, je sais pas. Avoir su que ça valait de l'argent, parce que j'ai été voir sur le marché noir sur Internet, ça vaut quand même assez cher. Alors ça, on l'aurait ramené d'un Ziploc.
Ben oui.
Mais oui, mais là, on le savait pas. Mais ma femme devrait arriver d'une minute à l'autre pour... elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enlève ses pansements. Puis là, il faut que je regarde les mamelons. Puis faut pas que ça soit noir ou bleu. Donc si ouais, comme là, elle va arriver probablement dans les prochaines minutes, mais en attendant, continue ta chronique.
Je veux pas dire que j'ai l'image, genre, ça fait un peu weird, mais en tout cas.
Non, mais tu pourras pas dire qu'on a jamais de. Tu sais, on a jasé de pas mal toutes ensemble. Ça c'est clair, là. OK.
Ah ouais.
On termine avec quoi, mon style de poche?
Je vais terminer avec de quoi de vraiment léger, puis de quoi qui est. Tu sais, vous avez des enfants, là, puis que, tu sais, on sait que les jeunes aiment beaucoup les jeux vidéo. Puis, tu sais, moi, quand j'étais jeune, puis c'était sûrement la même chose pour toi, c'était mal vu, les jeux vidéo.
Oui.
Tu sais, on disait, ah, maudit jeu vidéo, ça. Ça, tu vas perdre ton temps, toute la quête.
Tu vas devenir violent. Là, tu vas tuer des gens avec ça.
Il y en a encore qui pensent ça, malheureusement. Mais juste pour donner, c'est quoi les jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, là?
Hey, moi, depuis que j'ai joué à Mario Bros, là, je tire des navets, puis des tomates, puis des carottes. Chaudes dessus, là, je les déterre, puis je les tire au monde. OK.
Oh, boy.
Ouais.
L'industrie du jeu vidéo en 2021, là, ça l'équivaut à 300 milliards de dollars. C'est plus que la musique et le cinéma combinés.
Là, dans le monde, là.
Ouais, dans le monde.
Wow.
Ça, c'est juste, si par exemple, vous avez des jeunes, là, qui veulent aller dans le jeu vidéo, ben, je pense que c'est l'avenir.
Oui.
Le domaine où est-ce qu'ils se dépensent le plus d'argent. Tu sais, il y a des films, des jeux qui coûtent aussi cher que la production d'un film et qui rapportent autant également. Fait que, tu sais, c'est rendu gros, là. T'imagines-tu ça? Tu sais, dans le temps, justement, de Mario Bros, on n'aurait jamais pensé qu'un jour, cette industrie-là allait valoir plus que la musique et le cinéma combinés.
Ouais, mais dans le temps de Mario Bros, c'était fait au Japon, ça arrivait, c'était clé en main, là. Tandis qu'aujourd'hui, c'est plus hot parce que, un, on les fait au Québec, on en fait des très, très bons au Québec. Il y a des making of, il y a des ci, il y a des ça. Tu vois, des comédiens avec des costumes, avec des patchs partout pour, tu sais, ça l'a énormément évolué, puis c'est fou parce que c'est nous autres qui font, en tout cas, parmi les plus beaux jeux vidéo au monde. On fait partie de cette gang-là, puis je trouve ça cool. Tu sais, je me sens concerné, mais je pensais pas que ça... Oui, j'étais conscient qu'il y avait beaucoup d'argent autour de ça, mais autant de milliards, wow!
Hallucinant. À ce point-là, moi aussi, ça m'a surpris, puis honnêtement, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, qu'on me dise « Ah, vas-y, ça va être bon, parce que tu sais, ça n'existait pas, les programmes, puis maintenant, il en existe des milliers. » Fait que tu sais, n'hésitez pas, si vous avez des jeunes là qui veulent aller là-dedans, puis tu sais, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas juste du gaming. Faut que tu sois bon en histoire, faut que tu sois bon en maths, faut que tu sois bon en architecture. Ça demande beaucoup de qualité puis beaucoup de domaines différents aussi. Fait que allez là-dedans, puis ça va être positif.
Ouais, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, comme dirait là.
Nous,
dans le temps, on avait des Commodore 64.
Et 6 mois, hein?
Tu voulais avoir un programme, c'était sur une cassette de musique que tu mettais dans le lecteur, ça loadait pendant 3 heures, là, puis tu sais, pour avoir un jeu de ping-pong, mais c'était 2 barres puis une boule, tu sais, je veux dire, c'est, en tout cas, c'est...
Ah, puis on tripait en plus.
Ben, c'est ça le pire, on n'avait jamais rien vu d'assez d'extraordinaire comme ça, mais finalement, ça allait évoluer assez rapidement. Moi, je te dirais que le coup de poing, là, le gros coup de poing, c'est le Nintendo, là, le Super NES, le Super, mais le Nintendo Entertainment System, le NES, là, la boîte grise, là. Ça a été le déclic, là. Vraiment, là, on a senti qu'on avait steppé up dans au niveau du jeu, parce qu'on était parti d'à peu près Atari Coleco, qui était des bonhommes en... on peut-tu appeler ça du 8-bit, là? C'était tout carré,
C'était du carré pas mal, le rappeur.
C'est ça, ça prenait de l'imagination pas mal.
On était bon, hein?
Oui, à Mario Bros, que là, de loin, en tout cas, de la façon qu'il était fait en 8-bit, bon, on voyait qu'il avait une moustache, puis il tirait des boules de feu, puis une salopette, puis... Tu sais, on a vu que ça avait évolué, puis on dirait que depuis ce temps-là, ben, ça fait quoi, genre une trentaine d'années, je vois ça évoluer, là, sans être un gros gamer, puis... À chaque fois, je suis étonné de voir ça, là.
C'est vraiment 30 ans parce que Nintendo a eu 30 ans dernièrement. Fait que, tu sais, en 30 ans, c'est rendu aussi gros que ça. Fait que j'ose même pas imaginer dans le futur, ça va être quoi, là, parce qu'on s'entend que l'industrie du jeu vidéo n'est qu'en progression depuis des années.
La réalité virtuelle me déçoit, on dirait. On dirait qu'on n'est pas capable. Là, la première fois que j'ai vu ça, là, ça fait quand même plusieurs années. Je me disais, aïe, ça vient de stepper up encore. Ça va être quoi dans quelques années? Rien. Tu sais, je veux dire, j'ai rien vu qui me surpris, à part l'évolution des graphiques, puis des, comme tu dis, là, les histoires, puis toute l'architecture. Comme mettons, tu joues à Assassin's Creed, là, tu étais en Italie en 1926. Mais Chris, c'est parfaitement l'Italie de 1926 au détail près, tu sais. Mais ça me semble que ça n'a pas steppé up tant que ça au cours des dernières années, là.
Ça, pas encore, parce que justement, ça demande tellement de performance que, tu sais, les ordinateurs, c'est soit faut que tu aies un méchant bon ordinateur, Ou sinon, ben, tu t'en vas dans des endroits comme MonVR. Tu sais, pour les gens qui ont jamais essayé ça, aller dans les endroits qui sont MonVR, eux autres, on s'entend qu'ils ont des méchantes machines. Puis que c'est parfait. Mais tu sais, je le sens que ça s'en vient. Tu sais, comme mon fils, il y a un Oculus Rift, puis que ça, il n'y a pas besoin de laptop avec ça ou d'ordinateur. Puis, tu sais, tu commences à ressentir quelque chose. Il y a un jeu de boxe, là, puis tu sais, c'est tellement réel que moi, je peux pas jouer parce que ça m'étourdit vraiment beaucoup, là. Fait que, tu sais, on dirait que je mange des coups de poing pour vrai puis que j'ai vraiment le KO, là. Mais,
toi, ça t'aide pas, toi. Ouais, c'est ça. T'as réellement le KO en partant, tu sais, imagine. Mais, As-tu essayé la porn?
Ça, j'en parlerai pas, mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils avaient vu ça. C'est juste qu'à un moment donné, c'est weird parce que là, tu le sais pas, tu cliques sur un, mais pas moi, là, quelqu'un, là.
Oui, ton ami.
C'est ça, qu'il y avait quelqu'un sur un vidéo, mais là, que c'était, il avait oublié que c'était pas un gars, il était devenu une fille.
Ah.
Donc... Fait que là, quand tu regardes en bas, t'es comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais là, ton cerveau, il y a de la misère à réaliser, mais ça, c'est mon ami qui m'a dit ça, là.
Oui, effectivement. Donc, il s'est retrouvé dans une scène où ce que c'était lui qui se faisait pénétrer.
C'est ça.
Hey, tu devrais amener sympathie à ton ami, surtout s'il était hétéro, là, on s'entend, mais sinon, oui. OK, mais c'est spécial. Moi, un jour, je vais essayer, un jour.
Ben,
je sais pas quand.
Là, c'est le temps, là, maintenant.
Penses-tu que ton fils pourrait me le prêter? Ah, laisse faire. On n'ira pas là.
Non, c'est ça.
Hey, avec la COVID, faut tout désinfecter ça.
Ben après, oui, on va attendre encore un peu.
Niaisage.
Mais bientôt, Mike, dans 3 semaines, d'après moi, on va être dans le VR.
oui, mais je serai pas dans le VR. En tout cas, t'as pas une dessus?
Oh, on va se laisser là-dessus.
Yes, poutoum. Salut Steve de Poche.
Ciao.
Salut, man. C'est Steve de Poche en direct de son téléphone. Ah, il y a quel jeu de mots poche, hein? Parlant de Steve de Poche. Hein? Dans 2 semaines, on va être dans le VR. Non, on va être dans le VR. Ouh là 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 là. Hey, j'ai un jeudi confession pour vous. Je vous en ai parlé, hein. Je vois ma femme qui est ici. Viens ici, chérie. Viens ici. Non, j'ai gêné. Montre les tétons à papa. Non, mais là, c'est évidemment, c'est une blague, mais là, j'ai pas le choix, faut que je le fasse là, parce que vous l'avez entendu, ça a sonné. Donc, je vais juste regarder quelques instants, parce que là, je peux pas arrêter le podcast, là, puisqu'il y a Marie-Possa qui est en attente. Donc, je vais juste regarder les seins à ma femme, qui sont magnifiques. OK? Ben, c'est parfait, ça. Donc, on en a un de fait, un de deux, hein, parce qu'il y en a deux, et ça va toujours à coup de deux, là, pour la plupart. Ah oui, c'est parfait. Donc la pastille, ma mère, donc c'est couleur Bourgogne Avalanche. Donc c'est parfait. Donc pour moi, c'est ça part. OK. C'est une crise de niaiseux. Ouais, oui, c'est niaiseux. Je suis niaiseux comme ça, que voulez-vous? Mais j'ai fait ma job. Elle m'a demandé. Elle me réveille à toutes les 2 heures. Même la nuit, là. Quand on dit un mari, tu prends mari, tu prends pays, là, mais c'est vraiment vrai, là. À tous les 2 heures, je me réveille. Et je vais observer les seins à ma femme, m'assurer que c'est pas noir ou bleu. Parce que on s'entend, si l'opération, je sais pas, il y a de l'infection ou quoi que ce soit, ça vire mal, faut aller immédiatement à l'hôpital. C'est très sérieux, là. Tu sais, je fais des farces, là, on rit ensemble, là, mais c'est très sérieux, là. Je surveille vraiment ça. J'aurais pas envie qu'il arrive un problème à ma femme. Pas seulement au sein, mais à ma femme, carrément. Donc, c'est spécial. C'est spécial. Je sais même pas pourquoi je vous en parle. Mais en tout cas, c'est là, en ce moment, c'était parfait. C'était très beau. Donc, félicitations, ma chérie, elle est déjà partie vers là-haut. Donc, hey, c'est le moment de parler, mesdames, messieurs, de sexe. Bien oui, on fait pas des liens comme ça pour rien. Et on va rejoindre immédiatement en ligne mademoiselle Marie-Possa qui va nous parler peut-être de gros seins et de petits pénis, on le sait pas. Salut Marie-Possa, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien. Écoute, ta première chronique a fait jaser, j'ai reçu des messages, le monde a aimé ça. Puis là, je me suis dit, faut tomber dans le plus crunchy, parce que c'est là-dedans qu'on a souvent les discussions les plus intéressantes. Et cette semaine, évidemment, on pouvait pas passer à côté. Fallait parler des mythes, hein, parce que là, évidemment, je viens de parler de ma femme qui a eu une réduction mammaire. Donc, les mythes des gros seins versus les petits pénis. Je pense que c'était ça un peu la ligne directrice qu'on voulait se parler cette semaine, hein?
Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les seins, il y a toujours quelque chose qui est assez mythique là chez la femme, parce que c'est sûr que c'est un objet de désir. Tu sais, il y a les femmes, il y a des seins de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les grosseurs, les grandeurs. Fait que c'est sûr que, tu sais, à la base des seins, c'est fait pour nourrir les enfants, les choses comme ça, ça a été développé comme ça. Mais on se le cachera pas, il y a un côté aussi sexuel qui peut être rattaché à ça. Fait que c'est sûr que ça peut, des fois, entraîner soit des mythes ou des espèces de complexes chez la femme. Coudonc, j'ai-tu fait des assez gros seins, j'ai dû faire des assez petits seins. Puis, c'est ça, dans le cas où ta femme a eu une réduction de ma mère, Il y a plusieurs, ben, j'en sais pas la raison, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. T'sais, ça peut être médical. La plupart des fois, c'est que c'est pour un inconfort. Les femmes qui ont des très gros seins, des fois, ils ont de la difficulté à s'habiller. C'est pas évident. T'sais, des fois, on se dit, ah, c'est bien beau, des gros ballons comme Pamela Anderson, mais il faut dire que ces personnes-là, ben, ils doivent se faire souvent leurs sous-vêtements sur mesure, les vêtements ça fit pas, ça attire beaucoup l'œil, hein, ça attire beaucoup l'attention, autant chez les hommes que chez les femmes. Moi, je croise une fille avec des gros seins, veux pas, mes yeux vont directement dans le clivage.
Ouais, mais c'est ça, ça attire l'attention parce que c'est quelque chose que visuellement on remarque assez vite là, quand même, on va se le dire. Mais je sais pas si ça a rapport avec ça aussi, tu sais, comme tu l'as si bien dit, tu sais, les seins à la base, c'est fait pour nourrir les enfants, les bébés. Tu penses que c'est un retour de l'homme vers ça un petit peu, le fait que ça a été un peu notre premier amour, ça a été notre premier contact, je veux dire indirectement ou inconsciemment, on a gardé ça en tête, puis on est toujours attiré vers le sein. Je sais pas si ça a rapport à ce que je dis là, mais il doit avoir une suite logique par rapport à ça, certain.
J'ai l'impression qu'il va avoir une suite logique. Écoute, j'ai pas été faire tant de recherches à ce niveau-là, mais ma théorie va dans le même sens parce que je me dis les seins souvent c'est quelque chose qui est réconfortant pour un bébé, même ceux qui n'ont pas allaité dans leur vie. Tu sais, quand tu te fais prendre par ta maman, ben t'es collé sur ses seins. Il y a quelque chose qui est très, très maternel là-dedans.
Confortable.
Fait que c'est ça qu'il y a un... Ouais, confortable, exactement. Fait que c'est ça qu'il y a quelque chose qui vienne te rappeler ça un petit peu, qui est attirant pour l'homme, là, pour devenir un petit peu chercher là, ce côté affectif-là. Là, où... Ça serait intéressant d'aller lire des études là-dessus, mais je suis pas mal sûre que... Dans ma logique à moi, là, il doit avoir un lien qui se fait.
Ouais, non, c'est sûr. Puis, tu sais, on parle des petits pénis aussi, tu sais. C'est un peu la logique de dire, tu sais, je pense que c'est toi, là, quelques semaines qu'on a fait notre chronique, tu disais, bon, les acteurs porno, je veux dire, le seul talent qu'ils ont, c'est qu'ils ont un gros pénis, ça finit là, je veux dire. Donc, c'est un mythe aussi de penser que ces gens-là qui ont des gros pénis sont nécessairement les amants les plus extraordinaires, tu sais. C'est comme un mythe, là. C'est un peu comme les femmes aux gros seins sont pas nécessairement les plus cochonnes. Excusez-moi, là, j'utilise des termes, là, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui utilisent ces espèces de comment je peux dire ça? C'est pas des mythes, là, quasiment, là. C'est quasiment des légendes urbaines, là. Mais c'est
ouais, ça. C'est les gens font des drôles de liens, des fois.
Mais c'est juste l'esthétique, là. Tu sais, je veux dire, oui, ça peut être pratique, mais c'est juste de l'esthétique, là, à la base, là.
Ben oui, c'est ça. Parce que j'ai fait mes recherches là-dessus, justement, parce que ça dit, la taille du pénis a pas d'importance sur le plaisir de l'homme. Ce qui veut dire que t'as un petit pénis ou un gros pénis, ton plaisir va être le même. Tu vas ressentir le même plaisir que quelqu'un qui a un énorme pénis. Donc, ça sert à rien pour un homme de penser que plus t'es équipé, plus tu vas avoir du fun. Fait que ça, c'est pas vrai. Puis de toute façon, aussi pour le côté de la femme, parce que là, le gars, il va se dire, non, mais c'est parce que moi, si j'ai un gros pénis, je vais donner bien plus de plaisir à la femme. Mais ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que l'entrée du point G, là, est à peu près à 4 cm, là, à l'entrée du vagin. Fait que t'as pas besoin d'avoir une maillotte de 30 cm pour faire jouir ta femme, parce que le point G est à 4 cm, le clitoris est drette à accès de main, pas besoin de rentrer tes doigts nulle part, il est direct là. Fait que pour qu'une femme ait du plaisir, t'as même pas besoin non plus d'avoir un gros pénis. Fait que je pense que le porno vient beaucoup entretenir là ce mythe-là du gros pénis.
Ouais, mais il y a quand même des femmes qui sont des size queens. T'sais, ils ont besoin de ça. Puis tu sais, je veux dire, ils vont le dire aux gens là. Tu sais, mettons que t'as un one night avec une fille. Puis elle a trippé sur les grosses maillotches, comme tu dis, puis tu sais, t'en as une normale ou une petite, whatever, ben elle va être déçue, puis ça va paraître. J'ai l'impression que ça peut jouer sur le moral ou le mental de l'amant en lui, là, tu sais, qui reprend confiance en lui, qui travaille vraiment sur le fait de dire, bon, ben je vais faire plaisir à une femme, je serai du célibataire, je vais m'amuser. Puis là, tu tombes sur une fille qui, elle a besoin de ça. T'sais, je sais, c'est psychologique là, plus que d'autres choses, comme tu dis. Là, t'sais, au niveau physique, t'as pas besoin de grand-chose pour faire triper la femme, mais t'sais, on dirait que c'est comme un niveau psychologique qu'il faut que certaines femmes traversent d'avoir un mec avec une grosse maillotche. Je sais pas, t'as-tu connu des filles comme ça?
Ben écoute, ben oui, j'en ai connu, parce qu'on a souvent, ben j'allais dire ça, on a souvent des discussions, mais c'est vrai, on a des discussions entre hommes de filles sur ces sujets-là et tout. Puis j'ai même tombé là sur un sondage là qui avait été fait qui dit que ça reste que 67% des femmes trouvent que c'est relativement important la grosseur de son pénis, comparativement à 21% qui pensent que c'est pas important pantoute. Et il y a un 11% qui trouve que c'est très, très important, la grosseur du pénis. Ça fait que ça reste quand même, chez les femmes aussi, hein, on se le cachera pas, la taille du pénis. On a toujours l'impression que le gars va justement nous faire plus jouir ou on va avoir plus de fun ou des choses comme ça, mais pas du tout, hein, parce que des fois, ça peut être assez
traumatisant. Il y a des
gars, apparemment, là, que c'est tellement gros que c'est pas plaisant, que ça fait mal, puis que c'est pas plaisant du tout, là. Écoute, tu vois arriver un gros bat de baseball, là. Je m'excuse, là. Mais...
là, tu l'avertis, excuse-moi, j'ai pas emmené ma mythe, moi, là, j'étais pas prêt, là.
Exactement. Mais c'est ça. Puis d'ailleurs, ça, j'ai lu ça. C'est-tu le gars qui a le plus gros pénis au monde? C'est un Mexicain.
Ah ouais?
Il s'appelle Roberto Esquivel Cabrera. Okay. Il a 52 ans. Puis lui, il a un pénis de 48 cm en érection.
Tabarouette, 48 cm, c'est une règle et demie, celle-là, et plus, là. Aïe, aïe, aïe.
Ben, non, mais je me dis, comment qu'il fait pour mettre ça dans ses pantalons? Ça doit bien y arriver aux genoux. Ça plie pas comme tu veux, cette affaire-là. C'est quoi, il fait 3-4 tours pour mettre ça dans ses shorts. Imagine la bosse qu'il doit... En tout cas, 48 cm.
Mais c'est le genre d'ami que tu vas avoir dans un party, parce que si tu veux faire un concours de limbo et tu trouves pas de bâton, il est là. Il peut t'aider.
Mais ouais. Tu t'appelles Roberto, puis Roberto, il va te faire une barre, mon ami. Là. Ça va être. Le party va être poigné là.
Roberto de limbo. OK.
Ouais. Mais ils ont le gars avec le plus petit pénis au monde aussi. C'est un Américain, lui, par exemple.
Ah ben,
c'est un Américain. J'ai son nom. Hey, moi, là, j'aurais pas laissé mon nom, moi, avoir le plus petit pénis du monde. Mais bon, il est assez courageux. Il s'assume avec son petit pénis.
Ouais.
Il s'appelle Nicolas Gilles-Ronan. Fait que les filles, si vous voyez ça passer sur Facebook, vous savez que vous n'avez pas besoin d'accepter son invitation. sur Tinder. Lui, là, en érection, il a un pénis de 7,6 cm.
700, ouais, non, c'est ça. C'est lui qui est catalogué le plus petit au monde.
Ouais. Il y avait un concours de micro-pénis à New York, puis c'est lui qui l'a remporté. Parce que, tu sais, pour te donner une moyenne, parce que là, tu vas me dire, ben oui, mais c'est quoi la moyenne? Parce que là, je t'ai parlé du gros, puis je t'ai parlé du petit. Fait qu'en moyenne, en érection, les hommes, c'est entre 12 et 14 cm la moyenne.
Ouf, OK, je pense que c'est des pouces. OK, c'est correct.
Non, c'est des centimètres.
OK.
Ouais. C'est des... Puis, tu sais, il y a aussi des mythes. Tu sais, là, ils disent les Asiatiques, ils ont des petits pénis, puis les Noirs, ils ont des gros pénis. Est-ce que c'est vrai, ça, tu penses?
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, puis je peux le dire, parce que j'ai une amie de fille à fréquenter que des Noirs, puis elle me disait, non, c'est pas vrai, là. Tu sais, oui, ça arrive, mais non, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde. C'est pas une garantie, ça, là, tu sais.
Non, c'est pas une garantie, mais j'ai quand même tombé sur un site Internet qui a fait des mesures mondialement. Mais ça reste que les Asiatiques en érection, parce que là, on disait que la moyenne, c'est entre 12 et 14 cm, la moyenne des Asiatiques, ça reste quand même 9,3.
Hi, on n'est pas loin du record Guinness, là.
Ouais, on n'est pas loin du micro-pénis, là.
Mais
alors que les Africains,
ouais,
ils seraient à 17 cm.
Hé, hey, ben félicitations, c'est le fun. C'est le fun d'être pauvre. Non, c'est pas vrai, c'est du jugement, c'est n'importe quoi.
Mais t'as raison, c'est une moyenne, mais c'est pas vrai que toutes les Noirs ont des gros pénis, puis c'est pas vrai que toutes les Asiatiques qui ont des gros pénis.
Non, mais c'est...
Mais on voit qu'il y a quand même une petite marge, là, entre les deux.
Ben oui.
Une marge de 8.
Il y a 8 cm entre les deux continents, là. C'est quand même quelque chose. C'est passé de quoi, là, entre les deux, là? Je sais pas si c'est l'eau qui est moins bonne ou quoi, là, mais c'est passé quelque chose. Mais ça me fait toujours penser, un soir, j'étais sur la brosse avec deux de mes amis, puis mon chum, dans le temps, il y avait une revue qui s'appelait la revue Maxime. Ouais, ben c'est ça, une revue un peu coquine, mais c'était pas du nu, là. C'était juste de la nudité, ben pas de la nudité, du... du sexy, là, tu sais, je veux dire, c'était, mettons,
ce
mois-ci, mettons, Scarlett Johansson en bikini, ouh, tu sais, puis avec un article, blablabla, puis là, à un moment donné, il y avait un article.
Un peu comme le summum, là.
Oui, ouais, c'est ça, très bon exemple, pour de vrai, là, tu sais, mais sauf que Maxime, je pense, c'est britannique ou américain, un des deux. Là, ce soir-là, on est ça brosse un peu, puis là, on feuille ça, puis on tombe sur un article, puis c'est anglophone, sur les petits pénis. Puis là, il parle justement d'une étude, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, on ouvre la page, puis dans le milieu de la page, il y a un pointillé marqué « Placez vos couilles ici », puis il y avait une règle le long de la page. Puis là, il y avait toutes les lignes, genre la moyenne asiatique, la moyenne canadienne, américaine, africaine. Finalement, ben moi je rentre dans la moyenne canadienne. Là, finalement, je suis pas pire. Là, j'avais peur un peu, mais finalement, je suis normal. Je suis loin des Africains, mais je suis normal quand même. Fait que ça m'a comme rassuré. Mais hey, on a ri avec ça. Oui, on est trois gars hétérosexuels qui se sont mesurés la bisoune sur une revue Maxime. Que voulez-vous? C'est maudit alcool, hein? On peut mettre n'importe quoi sur l'alcool.
Ah, oh, mais moi, là, je suis pas mal certain que... Ben ça, c'est peut-être à toi de me confirmer ça, mais je pense que, d'après moi, à peu près tous les gars ont dû au moins une fois se mesurer la bisonne au moins une fois dans sa vie.
Oui, ben oui, ben chose, le faisait dans Porky's, le film Porky's, là, puis oui, là, puis oui, il se la mesurait qu'une règle, là, puis je sais pas si t'as déjà vu ce film-là.
Ben oui.
Ben c'est ça, ben lui, il se cachait une espèce de chart, là, un genre de diagramme là, qu'il faisait à la main, là, à chaque jour, il se la mesurait au réveil, en érection au réveil, puis il se faisait une moyenne, puis il disait, ah, faut que je baise, j'ai jamais baisé, faut que je baise, parce que là, elle est en train de diminuer, puis là, c'est tellement drôle ce film-là, là, anyway. Mais non, je me l'ai pas mesuré quotidiennement, mais cette fois-là, je dirais qu'on l'a bien ri, mais tu sais, on se l'est mesuré... sans être en érection. Juste pour pas vous partir des rumeurs, là. On n'a pas pris le temps de se jouer après l'affaire pour l'exercice. On se l'est juste déposé comme ça pour la science dans la revue. Et comme ça, c'était gênant. Finalement, d'en parler de ça, à jeun comme ça.
Ben oui, mais c'est gênant d'en parler. Mais comme tu dis, je pense que tous les gars l'ont à peu près fait.
Ben oui.
Moi, malheureusement, je me suis jamais vraiment mesuré les boules. Ah, oh, ben j'ai déjà fait mon tour de poitrine, voir de quoi ça avait de l'air, mais on fait pas ça en chum de filles, par exemple.
Non, c'est juste les gars sous qui font ça, des conneries de même. Heureusement, on vieillit puis on mature un peu. Puis ça, je suis en train de perdre des abonnés graduellement. Ils disent tout, voyons, tu fais pas ça, Mike, ah, tu me décourages, salut. Ils s'en vont. Mais c'est ça, c'est des mythes que je pense que de plus en plus on commence à combattre pour vrai, tu sais, je veux dire, je pense là-dedans, il y a du vrai puis il y a du faux, tu sais, oui, il y a des gens, comme tu disais, des filles qui, pour eux autres, ils disent que c'est important, 20% qui disent que c'est pas important, c'est pas vrai, moi, je pense que j'ai entendu ça plus souvent que 20%, mais est-ce que c'est toujours vrai? Non, c'est peut-être juste parce que la femme est en amour avec le gars puis elle veut juste pas le, je sais pas, mais tu sais, il y a comme un jeu là-dedans, puis l'important, c'est d'être juste bien, tu sais, que vous aimiez des gros seins, des petits pénis, des gros pénis, des petits seins, des belles fesses, des grosses fesses. L'important là-dedans, c'est d'être heureux avec la personne qu'on est, puis de laisser tomber les mythes là, comme ça, parce que je pense que le problème des jeunes actuellement, puis c'est ce qu'on... Je pense qu'on a vécu nous autres aussi, mais à plus petite échelle, parce qu'on n'avait pas Internet, mettons, à l'adolescence, là, on avait plus des posters de Samantha Fox, là. Je parle pour moi, là. Mais tu sais, aujourd'hui, les jeunes, tu sais, l'hypersexualisation des jeunes, c'est quand même un peu traumatisant compte tenu qu'eux autres, leur...
Ah, ben oui, leur, exactement.
Leur image...
C'est alarmant, parce que tu sais, là, eux autres, ils ont accès à ça, et souvent, c'est que avec toutes les Photoshop, puis les Facetunes, puis les filtres, puis les choses comme ça, ils ont une espèce de perception de la réalité qui est même pas une vraie perception. Donc là, les gens vont aller se mettre des injections dans les lèvres pour avoir les grosses lèvres comme Kim Kardashian, puis parce que leurs modèles puis leurs exemples, c'est la seule chose qu'ils ont, c'est des modèles sur Internet qui eux-mêmes se payent beaucoup en chirurgie, puis en plus d'avoir de la chirurgie, ça se Photoshop comme ça se peut plus. Donc ouais. Là, ces jeunes-là, ben c'est des exemples qu'ils ont. Puis malheureusement, ça peut faire bien des complexes au niveau du corps. T'aimes mieux avoir un gros cul puis des implants dans les fesses parce que, tu sais, écoute, on parlait même pas de ça il y a 10 ans, des implants dans les fesses là. Toutes les filles veulent avoir des grosses fesses, puis des gros seins, puis des choses comme ça. Donc, c'est un peu démesuré. Puis, pour pour arriver à un standard qui est même pas un vrai standard.
Ouais, c'est ça, c'est un faux standard. C'est un standard que les autres vont voir sur Internet, puis en le voyant sur Internet, on dirait que ça confirme que c'est ça qu'ils doivent atteindre, alors que ça n'a juste pas rapport. Faut juste être bien dans sa peau, puis tu sais, la nature fait les choses, puis je pense que c'est à nous de bien s'en sortir. Puis là, évidemment, il y a des cas particuliers, on s'entend, comme dans le cas de ma femme, ça, c'est quelque chose, comme tu l'as dit au début, c'est à un moment donné, ça devient comme, ça apporte d'autres problèmes, que ce soit physique, au niveau du dos, quoi que ce soit, là, t'as pas le choix de faire quelque chose pour ça. Tu sais, les pénis, tu sais, oui, on parle beaucoup des petits pénis, mais je veux dire, quelqu'un qui en a une trop grosse, moi, j'en ai connu un, puis il me le disait, c'est pas agréable, c'est une relation complète, là, j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, là, tu sais, mais c'est ça, je veux dire, on pense que c'est toujours plus vert chez le gazon du voisin, mais il y a des désavantages à ce qu'on pense être des avantages. Donc, c'est ça. C'est un peu ça qu'il faut essayer de briser. Puis surtout d'en parler avec les jeunes. T'sais, là, on parle de ça, on a l'air un petit peu au-dessus de nos affaires, mais en même temps, je veux dire, toi, t'as des enfants qui s'en vont vers l'adolescence, c'est pas déjà le cas. Moi, j'ai un gars, ben mon beau-fils, lui, 13 ans, qui s'en va vers ça. C'est de leur expliquer c'est quoi la vraie vie, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'ils voient sur Internet, puis oui, ça peut paraître alléchant, oui, ça peut paraître parfait puis hot, mais la première fois, c'est pas ça, puis les autres fois d'après, tout dépendant de ce qui arrive, avec qui passe sa soirée ou quoi que ce soit, c'est pas nécessairement ça non plus, puis la façon de traiter une femme ou de traiter un homme, c'est pas nécessairement comme ça non plus, tu sais. Il y a plein d'affaires, je pense, d'éducation que les parents sont pas nécessairement à l'aise à le faire, puis je dis ça en me regardant dans le miroir. Moi, j'ai tellement peur que ma fille me pose des questions, là, je sais pas ce que je vais faire, là. Mais c'est ça, on a une grosse job d'éducation à faire là-dedans, puis faut pas se fier sur Internet pour faire l'éducation de nos enfants, sinon ils vont partir justement avec des mythes préétablis par rapport justement à la grosseur du pénis ou des seins ou des fesses ou whatever, là.
Oui, en plein ça, puis tu me fais penser, parce que ça fait un moment que j'y réfléchis. J'aimerais peut-être me repartir un projet comme ça qui parle de sexe, de sexualité, mais tu sais, bon, tu me connais, les années passées, c'était mes expériences personnelles, puis c'était un blog qui était dédié à mes expériences, puis ce que je vivais moi, mais je me dis, on dirait qu'il n'y a plus vraiment d'exemples pour les jeunes, ou soit des chroniques ou des capsules qui parlent de sexualité, qui en parlent franchement, qui parlent ça de façon libre, là, puis pas comme dans un cours de sexualité comme au secondaire 3, là, puis t'expliques là, le pénis du monsieur, il va dans le vagin de la madame, donc de façon plus cool, plus le fun, parce que là, on dirait que nos jeunes, ils sont élevés par OnlyFans, puis par Pornhub, puis c'est soit à l'école, c'est bien plate, ou soit ben tu te ramasses sur OnlyFans à penser que tout est rose là-dessus, alors que c'est pas vrai, tu sais, fait que ça serait le fun, là. J'ai commencé à approcher des gens, là, faire un espèce de petit collectif, là, où est-ce que tu pourrais recommencer. Puis c'est toi aussi, tu m'as donné le goût, là, parce que tu m'as dit, ah, oh, Marie, pas ça, ça te tente-tu de recommencer à faire des chroniques? Je dis, ouais, ça me tente, parce que je pense que c'est important qu'on en parle.
Ben oui, c'est important. C'est très important, parce que ça a l'air de rien. Tes premières expériences sexuelles vont dicter probablement ta vie sexuelle dans le futur. Je te dis pas que ça va être un décide de l'autre carrément, mais ça l'aide énormément. Quand ça se passe bien, les premières expérience, t'apprends à aimer ça avec tes qualités et surtout avec tes défauts. Puis c'est le travail des parents là, faire ça. Là. C'est pas le travail des étrangers ou des éducateurs. Puis on va dérouler un condom sur une banane. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont besoin, les jeunes. Ils ont besoin de savoir. Les parents ont besoin de savoir qu'est-ce que le jeune a vu, puis comment le jeune se questionne. Puis encore là, premièrement, il faut que le jeune se confie aux parents. Ça, c'est un autre paire de manches aussi. C'est un autre défi, là. C'est pas toujours évident. C'est pas tous les jeunes qui veulent parler de sexe avec leurs parents. Déjà, eux autres, dans leur tête, ils pensent qu'ils sont nés dans des feuilles de choux, parce qu'ils s'imaginent pas leurs parents. Autant que nous autres, on s'imaginait pas nos parents en train de, hein? Mais, mais c'est ça. Il y a un malaise là-dedans, mais en même temps, quand on dit de briser les tabous, je pense qu'il faut commencer par briser notre tabou à nous de parler de sexe avec nos enfants. Puis, tu sais, évidemment, je vous dis pas de les amener dans le salon, puis leur montrer des photos, puis c'est pas ça qu'ils veulent, là. Je pense que ils ont juste besoin d'en parler, puis vous autres, vous les répondez du meilleur de vos connaissances. Moi, j'ai une anecdote, je pense que je l'ai déjà raconté, tu sais. Je vais essayer d'être meilleur que ma mère, puis là, jugez pas ma mère, OK? Parce que ma mère, elle était pas très à l'aise à parler de sexe, puis même moi, là, je suis pas sûr que je vais être à l'aise de parler de sexe avec ma fille, là. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, J'étais dans le cours d'école, puis à un moment donné, à 12-13 ans, tout le monde parlait de crosser. « Hey, t'es-tu crossé, toi? »« Ah, mais je me suis crossé. »« Ah ouais, ouais, moi aussi. Toi, tremblé, t'es-tu crossé? Oh, »« Ouais, ouais, je me suis crossé. » J'avais zéro idée c'était quoi pour vrai. Mais tu sais, pour être dans la gang, je disais « Bah ouais, je me suis crossé. »« Ben oui, c'est sûr. »« Ah ouais, t'as fait ça quand? »« Ah, en fin de semaine, là. »« Ah ouais, ouais, cool, hein. Ça a-tu giclé, là? » »« Là, je comprenais rien. »« Voyons, c'est quoi qu'il parle? » Crossé. Là, à un moment donné, je dis, de la merde, faut que je demande à quelqu'un. Moi, j'habite chez mes grands-parents. C'est eux autres qui m'ont élevé. Mais ma mère, elle habitait dans une autre ville. Puis là, je demande à mon grand-père. Mon grand-père, tu sais, il est religieux, il veut pas parler de ça, mais jamais. « Ah, demande à ta grand-mère, OK? » »« Demande à ma grand-mère. » Ma grand-mère, c'est super puritaine. De... « Ah, appelle ta mère. » »« Ah, oh, sacrément, c'est donc bien compliqué, ça. » J'appelle ma mère sur l'heure du dîner. Je dis, « Hey, man, c'est quoi se crosser? » Elle me répond, « Ben, c'est se passer le doigt. » Mais là, elle pense pas que je pose la question pour moi. Là. Elle répond pour elle. Là. C'est comme, « Ah, OK, c'est beau. Ben, merci. » Là. Puis là, je raccroche, mais je me dis, « Tabarnak, je me le passe où le doigt, moi, là? Là? » Je comprenais rien. Je comprenais. Tu sais, vous comprenez-vous l'importance de communiquer avec les enfants puis de le communiquer dans le bon sens? Ben, c'est ça.
Ben oui.
Hein? Puis, donc, prenez l'histoire de Mike Tremblay puis son expérience avec sa mère. Mettez ça dans votre petit bagage, puis faites pas ça avec vos enfants. Pauvre maman. Hey, ça fait plusieurs fois que je la raconte en plus, puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle passe pour une conne, mais c'est pas ça. Elle était pas à l'aise. Elle me l'a dit. « Chris, je comprenais pas pourquoi tu me demandais ça. Je t'ai répondu ça, puis j'ai raccroché. » Je dis « Bon, OK, je comprends. »
C'est très drôle.
Pauvre elle. En tout cas, man, c'est ça. Mais faites pas ça. Là. Prenez le temps d'écouter vos enfants. Ils vont avoir leurs propres questions. Puis au pire, si vous êtes pas sûr de votre réponse, ben reposez-leur d'autres questions, puis anyway. Ah, c'est traumatisant. J'ai peur. On dirait que je suis comme anxieux d'avoir cette discussion-là avec un de mes enfants. J'ai comme peur. Toi, t'as-tu déjà eu ce genre de discussion-là déjà?
Oui, j'ai déjà eu. Ah, ouais. Moi, la mienne, elle a 15 ans quand même, puis elle a un chum et tout. Donc, c'est important là, d'avoir ces discussions-là, tu sais, parce que rendu à 15 ans, je veux pas.
Ben oui.
Ça peut avoir des enfants, hein, oui. Déjà, même tu sais, physiquement parlant. Donc, c'est sûr qu'on a eu des discussions, puis elle était très ouverte. Mais j'en ai parlé jusqu'à la mesure où je voyais qu'elle était à l'aise d'en parler.
Ah, c'est ça, à un moment donné,
je vais pas aller plus parce que tu me connais. Moi, j'ai pas la langue dans ma poche, puis je suis capable de parler de sexe très librement et tout. Mais oui. Je peux pas non plus la brusquer ou lui, tu sais, lui dire des choses qu'elle veut peut-être pas nécessairement savoir tout de suite.
Ouais, non, je comprends. Puis faut pas les brusquer puis les acculer au pied du mur justement parce que les autres ils vont sentir que c'est pas le fun. Puis la seule affaire faut qu'ils comprennent là-dedans, c'est que si c'est bien fait puis avec respect puis tu sais en se protégeant, ça peut être le fun pour vrai. Même la première fois peut être le fun. C'est ça la beauté là-dedans. C'est un petit moment que personne n'est obligé de faire, mais que lorsque deux personnes consentantes ont le goût de le faire, ça peut être un moment le fun, vraiment trippant, puis ça coûte rien en plus. C'est ça la beauté.
En plein, ça. Et, ouais. Exactement.
Ah, mon Dieu. On dirait que je me suis ouvert comme une huître, puis je le regrette un peu. Je sens que je vais en entendre parler de cette chronique-là.
Bon, ben ça sera une occasion de me réinviter encore.
Ben, c'est sûr. au moins une dernière fois avant la pause de l'été. Là, ça va être ton choix. Là. Tu t'essaieras de trouver un beau sujet, là, quelque chose de le fun pour nous autres, puis on va t'écouter, ma belle Mariposa.
Ah bon, ben c'est super. Merci encore de me donner l'occasion de venir parler sur ton show. J'aime tout le temps ça.
Ouais, c'est toujours le fun de se parler de sexe. Donc, un gros merci.
Ça fait plaisir.
Salut. Bonne soirée. Salut.
Toi aussi. Bye-bye.
Yes, salut. Donc, c'était Mariposa, live de son téléphone avec nous pour nous parler, bon, des mythes. Hein, des mythes, les gros seins, petits pénis, grosses fesses, pas de fesses, implants, pas d'implants, réduction, augmentation, lèvres, pas de lèvres. Anyway, vous comprenez, là? Je veux pas vous voir me parler de mon test, hein, de mesurage de pénis. Hein. Puis, je vous demande surtout pas de me challenger à me mesurer. C'est terminé, ce temps-là. J'étais jeune et fou, et j'en en parle plus. C'est terminé. Voilà. Et pourtant, je suis même pas sous. Je suis à jeun, complètement à jeun. Je sais pas pourquoi. Mariposa, elle a réussi à me faire dire des choses que je dis pas à personne d'autre. Imaginez. Puis ça tombe dans vos oreilles, puis je le censurerai même pas. C'est ça la beauté du supermatozoïde. Ah, voilà, c'est la fin de l'épisode 356. J'espère que vous avez eu du plaisir. J'aimerais ça remercier évidemment la gang de podcast.com, Martin Godette, Frank Pocket, toute la gang. Merci de l'accueil. C'est un privilège de faire un podcast pour vous autres et surtout pour vous, chers auditeurs. Merci aux travailleurs essentiels, aux camionneurs, tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez au travail ou même à la maison, lors de vos moments de détente, le soir en camping, en prenant une petite bière ou n'importe quoi. C'est toujours un plaisir de vous jaser puis de faire le meilleur show d'opinion possible pour vous, chers amis. Voilà. Et j'aimerais terminer en remerciant les patrons. Eh bien oui, si vous n'êtes pas encore patron, je vous invite à aller sur le patreon.com/ Mato Radio. Voilà. 2, 5, 10, 20 $ par mois, comme vous voulez. Et ça aide un gars qui raconte ses expériences avec sa mère de crossage. Voilà. Dit comme ça, ça fait louche, hein? Hey, je vous souhaite une bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et profitez du beau temps. Il y en annonce. Surtout de la chaleur. Ça va faire du bien. Si vous avez une piscine, sautez dedans. Si vous n'avez pas, ben, creusez-vous un trou puis couchez-vous dedans. OK. Hey, bonne semaine. On s'en jase jeudi prochain. Ciao.
De la famille H2O Web Media.